Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Michael Borot, un très grand champion de taekwondo, devenu ensuite coach, entraîneur de l'équipe de France. Et puis là, récemment, il a quitté la fédération pour vraiment changer complètement de vie. Il veut se concentrer sur le coaching de dirigeants, impacter la vie des gens autrement. Il continue quand même dans le taekwondo. Il est appelé par plusieurs équipes nationales de différents pays pour les aider à développer leur programme de taekwondo et améliorer le niveau de leurs compétiteurs. Et voilà, donc dans la conversation, on parle de plein de choses, de son entraînement à l'époque, de sa participation aux Jeux Olympiques et puis plus tard, le cheminement qui l'a amené à cette prise de risque de quitter une vie tranquille où tout se passait bien, de repartir quasiment à zéro pour une sorte de nouvelle vie. Donc je te laisse découvrir cette conversation qui est, comme toujours, passionnante.
And now, this is the moment you have been waiting for.
Eh bien écoute Michael, on est parti. Bienvenue sur le podcast, ça me fait plaisir de te recevoir. Alors souvent j'essaye de présenter un petit peu mes invités, mais je me suis dit aujourd'hui que ça pourrait être sympa que ce soit toi qui te présente, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, voilà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
Alors Michael Borot, en ce moment je ne fais plus rien parce que j'ai démissionné de la Fédération française de taekwondo depuis 2 mois, où j'étais entraîneur national depuis 6 ans à l'INSEP, à l'Institut National du Sport.
Ok.
Et aujourd'hui, je vais essayer de me consacrer pleinement à mes diverses activités.
D'accord.
Alors, celui d'entraîneur, coach, coach sportif, qui enseigne le taekwondo, mais au niveau national, mais au niveau international.
Ok.
Préparateur mental, puisque je me suis formé depuis quelques temps à la préparation mentale. Ça me paraissait indispensable dans la performance en général d'avoir cette compétence. Je travaille aussi pour une entreprise qui propose des logiciels de gestion pour des salles de sport, des salles de fitness et tout ça. Donc,
c'est quoi comme logiciel ?
C'est un logiciel qui s'appelle Moves. C'est un logiciel qui permettra, on va dire, de remettre l'humain, comme je te parlais tout à l'heure, au centre des salles. Donc ça propose du coaching sportif, du coaching individualisé, du small group. Donc ça gère un petit peu l'organisation de la salle en général. Voilà.
Super. Donc tu fais plein de choses.
Ouais, pas mal de choses, et en ce moment encore, je me forme au coaching professionnel. Ouais. Le but, c'est de coacher les dirigeants d'entreprise, transférer le modèle sportif dans le milieu de l'entreprise. C'est très à la mode, mais moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à une méthode, c'est une approche holistique, c'est-à-dire vraiment corps, esprit, physique, nutrition, vraiment quelque chose pour moi. C'est indispensable d'amener quelqu'un à son évolution sans l'apporter ses compléments.
D'accord, donc tu passes quand même par le sport dans ce coaching-là de dirigeant ou c'est...
Je passe d'abord par les outils de communication et de développement personnel qui sont propres au coaching professionnel. Ouais. Et ensuite, pour équilibrer, j'apporterai une approche dépassement via le sport. Travailler sur la gestion des émotions par la préparation mentale et le côté nutrition qui me paraît pour équilibrer un petit peu tous les facteurs exogènes de la performance.
Ouais,
et quand je parle de performance, c'est aussi mental ou professionnel.
Bon, on voit dans le milieu professionnel que souvent les plus grands entrepreneurs, chefs d'entreprise sont souvent sportifs, soit sportifs par plaisir ou alors avec un passé de sportif de haut niveau. Et c'est vrai que j'entendais quelqu'un une fois qui disait ce qui est intéressant, c'est que quand on est sportif, de haut niveau ou pas, mais souvent on est coachable parce qu'on a l'habitude d'avoir un coach, de l'écouter et que du coup même dans le milieu du business, des affaires, ça se transfère parce que si on est capable d'écouter ce qu'on nous dit, on va pouvoir souvent plus avancer que si on est entêté à vouloir écouter personne. Du coup, c'est pour ça que j'ai remarqué que le sport est souvent au centre, tu vois, de gens qui ont réussi dans la vie, quoi.
Oui, bien sûr, pour parler d'équilibre, oui, je pense que pour revenir un petit peu sur mon parcours, moi j'ai eu un très très long parcours en équipe de France, j'en ai fait pendant 16 ans à très haut niveau, où j'ai pu faire pas mal de médailles, j'ai fait 2 fois vice-champion du monde, champion d'Europe chez les lourds, vainqueur de la Coupe du Monde, champion du monde universitaire, et j'ai même fait les Jeux.
T'as fait les Jeux, c'était en quelle année ?
En 2008, à 2008. Pékin. Voilà.
Ça s'était passé comment ?
Très mal, très très mal, parce qu'au tirage au sort, je prends le champion du monde en titre, et il était numéro 1, j'étais numéro 2, et premier tour, je perds d'1 point à 10 secondes de la fin, et c'était la fin, quoi. Pour moi, c'était un rêve qui commençait à s'écrouler, ça devenait un cauchemar. Et finalement, après coup, je me suis dit que c'était une belle expérience. Et de là, j'en ai tiré des enseignements.
Et c'était qui le mec en face ?
C'était Modibo. Modibo, c'était un Malien, double champion du monde, qui faisait 2m08. Ah ouais. Moi, j'étais petit dans ma catégorie.
D'accord.
Mais voilà.
C'était... Donc, t'étais en lourd
J'étais en lourd, ouais, ouais. C'est ça.
Et est-ce que tu... Enfin, vraiment, est-ce que c'est un problème de niveau ? C'est-à-dire que ce mec-là, tu ne pouvais pas le battre quoi qu'il arrive ? Ou tu crois qu'il y a un truc dans ta prépa que t'aurais... Enfin, tu vois, maintenant, rétrospectivement, puis avec toutes les leçons que tu en as tirées, les connaissances que tu as aujourd'hui, est-ce que si tu te coachais... Tu coachais le Michael de cette époque-là, tu arriverais à lui faire gagner les jeux ou pas, d'après toi ?
Oui, parce que l'élément qui a été déclencheur dans cette performance, si je peux appeler ça une performance, c'est qu'au départ, je n'étais pas sélectionné. Alors, pour te raconter l'histoire, moi, j'étais en concurrence durant toute cette période face à Pascal Gentil, qui était mon concurrent direct. Donc, ouais. C'était un fauteuil pour deux. Mmh. À savoir qu'un an avant, j'avais été... gagner le tournoi de sélection olympique mondiale en remportant le tournoi. Donc, ouais. J'avais ramené le ticket chez les lourds, mais ce n'était pas nominatif.
D'accord.
Un an après, la fédération décide, entre nous deux, alors que je venais de le battre en test match, Pascal Gentil, de choisir Pascal Gentil.
Ouais.
Coup du sort, j'arrête ma carrière. Je dis stop, c'est bon. Je ne pouvais pas jouer le jeu, continuer à faire semblant. Je qualifie la KT et lui, il va aux Jeux Olympiques. Je rentre en Martinique. On m'appelle, on me dit « Pascal, il s'est blessé, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. » Le coach hollandais qui avait été sélectionné à ce moment-là a démissionné parce qu'il pensait que la décision était injuste par rapport à moi.
Ouais.
Donc, je me retrouve avec un coach qui n'était pas le mien. Et voilà, j'étais au jeu. J'ai fait une belle prestation. Hein. Je veux dire, je perds quelques secondes de la fin d'un point. Mais il m'a manqué, moi, je pense, que pour faire la différence, cette étincelle... d'avoir cette reconnaissance de ses pairs, de la fédération qui mise sur toi et pas en dernière minute, pas c'est en ça, tant que ouais. remplaçant.
C'est ça, donc être remplaçant, ça a dû un impact psychologique aussi peut-être.
Psychologique, c'est-à-dire que dans le sens où tu dis mais est-ce que t'es vraiment ta place ? Est-ce que t'es vraiment à ta place ? Est-ce que t'es légitime ? Je pensais au fond de moi, mais c'est toute un équilibre, une harmonie qu'il faut créer derrière l'athlète, le porter pour qu'il puisse aller chercher une médaille au jeu. Ouais. Dans cette circonstance, peu d'athlètes. Arrive peut-être à se transcender. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai pu analyser un peu ça et je vois que c'était une belle expérience parce ouais. que je m'appuie sur ça pour pouvoir aujourd'hui coacher mentalement des athlètes, sportifs ou non, par rapport au rebondir après l'échec, ouais. par rapport à des désillusions, parce que un périple ou un parcours de sportif est jaugé de moments comme ça, quoi.
Et souvent, c'est vrai qu'on dit, c'est cliché, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Plus de ses erreurs que de ses victoires.
Tout à fait.
Donc là, toi, il s'était blessé assez tôt dans la préparation, ça n'a pas
et
trop...
Un mois et demi avant. Et moi, j'avais arrêté 3 semaines ma préparation, entre guillemets, on était... voilà, la décision s'est donnée 2 mois avant.
Ouais.
Donc on était à bloc tous les deux. Moi, je pars pendant 2 semaines, et on m'appelle, on me dit oui, mais peut-être qu'il va reprendre, mais il faut que tu reviennes. Dans ce climat-là, ouais. j'étais vraiment pas en confiance et j'étais... je pense que je me suis entraîné avec un frein à main.
Ouais. Et après, les 2 semaines où t'arrêtes, tu fais rien du tout.
J'ai rien fait. Ouais. T'apprends que tu n'iras pas au jeu, que tu t'es entraîné comme un malade, tu ramènes le ticket. On dit que finalement, ben ouais, mais on préfère l'autre parce qu'il a l'expérience des jeux, parce que c'est Pascal. Donc à ce moment-là, ben, je me suis dit fuck, excusez-moi de l'expression.
Ouais, non, mais tu peux
et
dire,
je suis rentré et je me suis dit j'arrête ma carrière. Et finalement, ouais. ben, j'ai eu la chance d'être sélectionné parce que c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, d'être. De vivre ce moment d'émotion où pendant 2 semaines le sport amateur est mis au centre du monde quoi. Et le taekwondo en particulier qui est un sport avec peu de licenciés où toutes les caméras sont en direction donc voilà ouais. c'était un bon moment en fait.
Et par rapport à ce que donc c'était pas ta première on va dire compétition au plus haut niveau qu'est-ce qui est différent justement de participer au jeu parce que c'est mythique mais on peut se dire qu'une coupe du monde ou enfin T'avais déjà fait à ce stade-là, t'avais déjà été titré au plus haut niveau à ce moment-là, non ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, j'avais gagné le tournoi, j'étais champion d'Europe en titre. Ce qui change sur les jeux, c'est l'enjeu, en fait. L'enjeu, on parle de jeu, d'enjeu. En fait, il faut se libérer de l'enjeu pour être dans le jeu. Et ça, c'est seulement les grands sportifs qui arrivent à trouver, on va dire, cette étincelle, cette motivation et sortir de cette pression qui est lié aux médias, à la famille, à toutes ces peurs de manquer, voilà, de pas être au rendez-vous, qui fait qu'à un moment, t'arrives, vous êtes dans une arène, en fait. Ouais. C'est la seule compétition où il n'y a qu'une aire de combat. un peu surélevé, le public tout autour, et là, tu rentres dans une arène et c'est la fosse aux lions, quoi.
Ouais.
Et à ce moment-là, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir t'en sortir vainqueur, quoi.
Donc, ouais,
Gladiateur.
Et il y a ça, la différence, c'est que au championnat du monde, il n'y a pas autant de monde au niveau du public. Parce que pour toi, c'est plus près. Alors moi, c'est une question que je pose, hein, j'en sais rien, mais c'était plus prestigieux d'être champion olympique que d'être vice-champion du monde ou d'avoir été même, si tu avais été champion du monde, tu vois. C'était plus prestigieux les Jeux.
Oui, forcément, ouais. Parce que les Jeux, pour toutes les disciplines amateurs, c'est tous les 4 ans. Un championnat du monde, ça peut être tous les ans chez le judo, tous les 2 ans chez le taekwondo. Et les répercussions pour un sportif qui gagne les Jeux Olympiques sont monumentales,
ouais,
en termes de financière, en termes de reconnaissance, en termes de notoriété. Voilà, ça n'a rien à voir. Et là, vous êtes dans une équipe de France olympique où tu peux être avec le mec qui fait la natation, la gym. Il y a vraiment quelque chose, quoi, autour de cette équipe de France olympique. Et là, tu ressens... une pression énorme. Et on le voit très bien, un champion olympique, il est décoré. Il est décoré par le président. Il est... Il y a une prime ministérielle. Il y a tellement de choses, en fait. Les sponsors à court. T'es plus le même homme, en fait. Ça change un homme, en fait.
Alors être que même à un championnat du monde, t'es en équipe de France, donc tu représentes quand même la France.
Ouais.
Mais ça a pas... ça s'arrête à ta fédération et à ta discipline, alors que là, il y a un rayonnement vraiment...
Ouais, international et national, ouais, exactement.
D'accord,
ouais. Ouais.
Ok, bah ça c'est. Tu vois, moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir un peu le vécu de quelqu'un qui a pu vivre ça, parce que vous n'êtes pas nombreux au final. Et toi, tu, au niveau de la préparation, que ce soit du coup physique, je pense pas que ça change grand chose, mais mental, en tant que coach, est-ce que quelqu'un qui va faire les Jeux, tu vas du coup appréhender ça différemment? Connaissance cet effet que tu vois de la pression que ça peut avoir sur le pratiquant, le compétiteur? Est-ce que est-ce que tu as eu des élèves qui ont fait les Jeux ou pas?
Alors moi, j'étais en charge d'un collectif jeune, donc j'ai pu coacher des jeunes aux JOJ, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
D'accord.
Et j'ai pu faire un champion olympique, même un médaillé de bronze. Donc c'était je venais d'être entraîneur, donc c'était en 2014, ça faisait un an, et c'était vraiment une belle expérience de vivre ça, mais de l'autre côté de la barrière, en fait, en tant qu'entraîneur.
Ouais.
De mettre en place des stratégies, un plan de performance, un plan d'action, afin que son athlète, en fait, vive les Jeux, mais d'une façon bien particulière, et qu'il soit au maximum de ses compétences et de sa performance.
Ouais.
Donc, d'accord, ça a été validé, en fait. Ouais. Validé, donc c'est... Voilà, vivre par procuration, c'est quand même quelque chose de fort, quoi.
Bah, c'est très gratifiant aussi, parce que tu sais que même si il y a une forte partie de la personne qui arrive à accomplir, mais t'es quand même derrière et... c'est toi qui l'as amené à ça, quoi. Donc, il y a quand même une gratitude, un sentiment hyper gratifiant, je pense, de valider ton approche, tes méthodes et tout ça. Ça doit être hyper agréable.
Mais c'est ce que j'adore, en fait, dans l'accompagnement et dans le coaching en général. C'est un peu mettre des stratégies, un plan d'action, utiliser les moyens, les ressources qui sont autour, et ensuite adapter, réguler. C'est un petit peu un jeu d'échecs qui me plaît, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je ne suis plus entraîneur national, je continue un petit peu ce côté un peu stratège, facilitateur de performance, que j'appelle ça, au sein de sportifs, mais au sein du monde de l'entreprise. Et ça, c'est gratifiant, comme tu l'as dit, quoi.
Ouais. Et comment du coup, concrètement, tu fais une préparation? J'aime bien souvent parler de préparation physique. Toi, à l'époque, comment tu te préparais? Alors, j'aime bien justement parler avec des gens qui, comme toi, ont le passé de compétiteur puis de coach, qui permet parfois de voir les choses après sous un autre angle, peut-être les erreurs qu'on a commises, tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu à l'époque comment tu t'entraînais et peut-être les erreurs que tu penses que si tu y a des erreurs que tu faisais, tu vois, quelles erreurs pour éviter que les gens les fassent, tu vois.
Alors, la chance que j'avais, c'est que d'abord, j'étais à l'INSEP.
Ouais.
INSEP qui est quand même le temple du sport de haut niveau, le temple du sport français pour les sports olympiques. Donc, on avait quand même les infrastructures, les moyens humains et les moyens financiers qui nous permettaient vraiment d'être le mieux accompagnés possible. Donc, on avait un préparateur physique. En ce temps-là, c'était Yann Morisseau, qui est aujourd'hui préparateur physique de Teddy Riner. Qui nous entraînait à ce moment-là. C'est un mec qui vient de l'haltérophilie. Et il avait une approche bien particulière. Et il y avait vraiment tout ce qui était déjà endurance spécifique à notre discipline. Donc ouais. tout ce qui était endurance cardio et endurance de force par rapport à un combat de taekwondo, c'est 3 rounds de 2 minutes. Donc pour être champion du monde, une minute de repos, chez un champion du monde, il faut enseigner 7 combats dans la journée, donc avec ces intermittences en termes d'efforts. Donc, il y avait tout ce travail d'endurance, tout ce travail spécifique aussi, travail de vitesse. Nous, on est un sport très explosif. Un travail de mobilité, de motricité et de coordination. Et ça, ça se faisait sous forme de circuit training multidirectionnel. On pouvait accélérer et on essayait de se rapprocher le plus possible de la discipline. La particularité du taekwondo, c'est bouger, occuper l'espace, changement de direction, aller chercher du multi-temps. Le retour de frappe, le positionnement, la protection du plastron, et tout ça, on essayait petit à petit de dissocier d'abord les éléments prépondérants à la performance et ensuite les rapprocher petit à petit du combat avec des mises en situation. Donc cette partie physique, elle était très, très intense parce qu'il y avait vraiment des parties où c'était développement de telle ou telle capacité et ensuite c'était affûtage, perfectionnement. Donc c'est vraiment une sauce, une recette, mais qui est propre à un préparateur physique et une approche. Et on a besoin que ce préparateur physique soit quelqu'un qui soit un peu gourou, c'est un mot péjoratif, mais quelqu'un en qui on a confiance. Ouais. Parce qu'il va orienter tous les facteurs physiologiques, psychologiques qui sont liés à la préparation physique aussi. Et on a besoin d'être OK pour être pleinement investi dans le projet. Parce qu'on ne peut pas faire semblant, en fait.
Ouais. Il vous suivait, par exemple, est-ce qu'il surveillait votre fréquence cardiaque au repos le matin pour voir... votre état de fatigue, des choses comme ça ou
alors, il n'y avait pas autant de suivi comme tu peux le dire, où oui, cette fréquence cardiaque qui te permet de savoir si on est en surentraînement. Il y avait le côté médical qui permettait, on va dire, de jauger un peu le surentraînement. Et voilà, tous ces indicateurs qui nous permettent de dire on est à fond, on est bien, optimal ou non, quoi. Donc, c'est pour ça que je te dis, l'INSEP pouvait nous apporter tout ça. Ouais. Moi, j'allais chercher des fois des petits plus à côté, parce que j'étais un fou de travail, j'avais besoin de faire toujours le petit plus.
Ouais.
Moi, je me suis construit en me disant que pendant que les autres dorment, il faut que j'en fasse plus. Et je comptais un peu mes heures d'entraînement que j'avais en plus par rapport à mon concurrent direct, qui s'entraîne avec moi, ou mes adversaires potentiels. Et voilà, j'étais un vrai robot. Et les erreurs qui s'est passées, c'est que avec l'âge, parce que moi j'ai arrêté à 37 ans, avec l'âge, je m'infligeais la même fréquence, la même intensité d'entraînement que les plus jeunes. C'est-à-dire que je pouvais m'entraîner avec des mecs qui avaient 10 ans de moins que moi, quoi.
Ouais.
Et pour moi, il fallait que je sois toujours aussi percutant, efficace, rapide. Ce qui fait qu'à un moment, mon corps, il ne supportait plus cette charge d'entraînement.
Ouais.
Et je m'en foutais du côté médical. J'ai déjà fait les championnats d'Europe sans les ligaments croisés. J'ai déjà fait les championnats de France, j'ai été faire un tournoi olympique avec un bras cassé. Ouais. En fait, j'étais vraiment dans le côté aller chercher le seuil de rupture, quoi. Et en fait, j'ai pas arrêté de me casser sur ma fin de carrière, quoi. Parce que je n'écoutais plus mon corps. Toutes ces alertes qui disaient, attention, là, t'as mal, bah ouais, c'est pas grave, tu fais avec. Voilà, moi, j'étais conditionné à me dire, si j'ai une jambe blessée, bah, tu vas faire avec l'autre, quoi.
Ouais, donc, c'est vrai qu'on a tendance... après, c'est pas les seuls types d'activités physiques où c'est comme ça, mais les arts martiaux, il y a quand même une composante où on apprend à s'habituer à la douleur, à gérer la douleur, et du coup, la gérer, ça fait partie de pas l'écouter. Et parfois, bah, pas écouter sa douleur, c'est pourtant un signal d'alarme pour dire attention, là, ça va lâcher à cet endroit-là, mais tu fais non, c'est pas grave, je continue, puis bah, tu te retrouves avec une blessure bien plus grave que si tu t'étais arrêté une semaine ou que tu avais pris soin de traiter le trauma que tu as, tu vois.
Ouais, c'est vrai que ça a tendance à évoluer, mais c'est vrai qu'auparavant, le sport, les sports de combat ou les arts martiaux en général avaient tendance à être très empirique dans cette approche de la préparation physique. On faisait un peu tout et n'importe quoi, mais c'était juste pour aller se dire, bon, allez, on va dépasser la douleur, on va dépasser un peu...
no pain, no gain.
Exactement, c'est ça. Ouais. Et c'est cet état d'esprit qui fait aussi qui fait la différence entre le champion et les autres.
Ouais.
Sauf que, voilà, il faut savoir équilibrer, c'est un coup, c'est clair.
Un coup, si t'es dans le no pain, no gain, et surtout, moi, je vois des gens qui sont dans le no pain, no gain et qui sont pas des compétiteurs, en fait, tu vois, qui font ça juste pour le plaisir.
Ouais.
Et qui, quand tu fais ça pour le plaisir, je trouve ça dommage de se détruire, tu vois. Quand tu fais ça, on va dire, pour un objectif de compétition, c'est toi qui as pris la décision de dire, je risque ou j'accepte peut-être un certain sacrifice de mon corps, des blessures, des choses comme ça, parce que je veux absolument atteindre cet objectif-là. Quand t'es en loisir, tu vois, c'est comme... on sait qu'il y a des, je sais pas, des cyclistes amateurs qui se dopent, des trucs comme ça, alors qu'il n'y a aucun enjeu, tu vois, ouais. Ça n'a aucun sens, tu vois.
Ouais.
Et c'est un peu ça, tu vois, que je trouve dommage, c'est que cette culture du no pain, no gain, que tu peux comprendre pour quelqu'un qui a, voilà, chez qui ça pourrait être éventuellement justifié, encore c'est questionnable, ça s'est transféré sur les loisirs, tu vois.
Oui.
Ça, par contre, ça n'a pas de sens.
Ouais, en psychologie, on appelle ça les drivers. En fait, c'est les drivers qu'on inculque aux gens, en fait, le soi fort. Mmh. Ce qui fait qu'on a l'impression que lorsqu'on a acquis une victoire ou une récompense sans avoir souffert, on culpabilise. On ne se sent pas à notre place, on ne se sent pas légitime. Parce qu'on n'est pas passé par ce degré de souffrance nécessaire par rapport à no pain, no gain. C'est devenu cette citation à la mode.
Ouais.
On est obligé de passer. Alors que certains ont plus de facilité que d'autres, ont ce phénomène compensatoire, physique, morphologique, où ils n'ont pas besoin de souffrir. C'est un plaisir. Pourquoi souffrir pour arriver Voilà, quoi. Bah, tu vois, donc il faut trouver le bon équilibre, en fait.
Bah, surtout qu'il y en a plein qui pensent que plus, c'est toujours mieux, alors que non.
C'est ça.
Parce que
c'est ça.
Le plus gros problème, c'est quand même aussi la récupération. Tu vois. C'est-à-dire que tu t'entraînes pour créer, comme tu disais, une adaptation, et pour que l'adaptation elle, se fasse, il faut qu'il y ait de la récupération, sinon elle ne se fait pas. Sinon, tu es en inflammation permanente.
Tout à fait.
Et tu détruis ton corps progressivement, tu vois. Et ça, c'est pareil. C'est les gens. Toi, tu me disais que tu faisais un peu en disant là, mon adversaire, il est en train de dormir, moi, je vais continuer, tout ça.
C'est
en
ça.
Disant, en plus, c'est toujours mieux, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais malheureusement, au final, j'ai vu plein d'histoires de sportifs de haut niveau qui performaient mieux en s'entraînant moins, tu vois.
Ouais.
Et qui disaient, mais. Bon, j'ai fini par faire confiance à quelqu'un, mais je comprends pas comment c'est. Tu vois, même il disait, je comprends pas comment c'est possible qu'en en faisant moins, je sois meilleur.
Ouais,
quoi.
Ouais. C'est une magie, quoi. Mais parce que, comme je te parle du driver, moi, je suis le driver, que ce soit par rapport à mes maîtres, mes enseignants qui m'ont appris à passer par la souffrance, mais c'est aussi, je suis la génération Rocky.
Mmh.
Donc, tu vois, donc quand t'as des ancrages de films, où se dit up and down, t'es obligé de tomber pour rebondir et ensuite être plus fort, et c'est le principe aussi du sport, où tu vas chercher la difficulté pour l'apprivoiser, pour en faire une aptitude. Donc, c'est... Voilà, tout ça fait que... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer par là. Ça veut dire qu'il faut peut-être, d'où moi le côté où je vais chercher la préparation mentale, faire confiance à ses sensations, à son instinct, à ses ressentis, à tous les capteurs qui nous disent, à tous les signes, nous disent attention là, tu peux faire autrement, compenser ou des choses comme ça. Et, et c'est là où je pense que tout le travail de visualisation, méditation, gestion des émotions et centrage par rapport à soi-même peut nous apporter ce petit plus.
Mmh. Ouais, mais ça, tu vois, dans ce que tu dis, parce que je sais pas, on doit être à peu près de la même génération. Moi, j'ai 40 balais. Je suis la génération aussi Rocky, tu vois. Donc, je comprends complètement ce que tu dis. Après, moi, il y a eu la période Van Damme, tu vois, avec ses écarts
en force.
Et tout. Et du coup, moi, j'ai fait pareil.
Pareil.
Et je me suis retrouvé malheureusement, à 25 ans, devoir me faire opérer de la hanche, tu vois.
Ouais.
Parce que j'avais bourriné comme un malade à vouloir faire comme Jean-Claude Van Damme.
Ouais.
Et puis, avec cette mentalité de derrière de Rocky, de tu vois, t'as pas mal, t'y vas, machin et tout. Bon, je disais ça ce matin à quelqu'un en plus au téléphone, je dis c'est un échec entre guillemets, c'est un truc que tu dis putain, une opération à 25 ans de l'ange, c'est relou, mais en même temps ça m'a permis tôt de dire ouais en fait non, ça va pas cette manière de s'entraîner et de commencer à réfléchir à traiter mon corps autrement, tu vois.
Donc,
pas arriver à 40 balais où d'un seul coup tu payes l'addition et il y a tout qui arrive, tu vois. Mais à 25 ans, j'ai commencé à me dire ok, ça en fait c'est peut-être pas la meilleure manière de s'entraîner, à me renseigner plus, tu vois, sur d'autres manières de plus intelligentes, tu vois, de s'entraîner pour durer. Même si moi j'avais pas d'objectif du tout de compétition, mais c'était toute ma vie, je faisais régulièrement 25 à 30 heures d'entraînement par semaine, tu vois, et en fait si tu fais ça pendant des années n'importe comment, la sentence elle tombe.
C'est clair. Et savoir comment on va vieillir. Moi, je suis croisé, ménisque, fracture, tibia, j'ai l'impression d'avoir fait la guerre. Et c'est vrai que je pense que dans quelques années, on va payer le prix. Et c'est un petit peu le message, tout comme toi, que tu fais passer par ces podcasts, de dire aux jeunes, aujourd'hui, on a testé, on a fait les erreurs. Aujourd'hui, on est là pour vous donner, entre guillemets, les solutions ou les méthodes pour éviter toutes ces embûches ou de faire souffrir votre corps. Quoi. Il y a la technologie, il y a Internet, il y a tout. Quoi. Ces informations, nous, on ne l'avait pas.
Non.
On a juste eu la télé, on a pris des modèles... Et voilà, et c'était des mauvais modèles. Et en même temps, je ne regrette pas par le chemin où je suis passé. Mais voilà, en termes de messages, je pense qu'il y a des messages forts à faire passer.
Je pense qu'en plus, effectivement, tu vois, les générations précédentes, celles de nos coachs et tout ça, admettre que t'as mal, ça va pas, que t'es foutu, que tes méthodes d'entraînement elles sont pas bonnes, c'était pas trop dans l'état d'esprit de l'époque, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal évolué sur ça. On est plus capable de dire... ouais, on se remet en question. Oui, j'ai eu tort de faire ça. Oui, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, ou tu vois.
Ouais.
Mais à l'époque, tu vois, c'est enfin les arts martiaux à l'ancienne, tu vois, c'est le prof d'arts martiaux, c'est le prof d'arts martiaux. Il a toujours raison.
C'est ça.
Il va jamais, s'il a tort, il va jamais admettre qu'il a. Enfin, moi, j'avais cette image-là, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est pour ça que eux, si éventuellement ils en ont souffert aussi, eh ben ils en ont pas fait bénéficier les générations suivantes. Parce qu'ils ne voulaient pas dire non, en fait, faut pas faire comme ça. Quoi.
Ouais, c'est clair. Et en plus, nous, le taekwondo, c'est assez nouveau au niveau national.
Ouais.
C'est apparaît dans les années 50 où des maîtres coréens sont venus un petit peu imposer. Donc, même nous, et encore la génération précédente, on applique le système coréen dans la structure. Alors, moi, je suis
très
militaire, en fait. Je suis très traditionnaliste. Mais ce qui est dommage, c'est de ne pas adapter. Des fois, l'art martial, la pratique, à la culture aussi, sans pour cela la travestir, mais se dire que, voilà, moi je parle côté sportif, hein, comme le judo a pu le faire par rapport le judo français par rapport au judo traditionnel, où ils sont passés dans le mode performance parce qu'ils ont étudié, ils ont dit, voilà, cet art martial, c'est un sport aujourd'hui olympique, alors comment passer de la performance? Donc il y a eu vraiment une étude, de la recherche, des analyses qui ont permis de passer le cap. Et voilà, quoi. Donc, sans pour cela perdre la base, on va dire, du judo, quoi.
Et puis après, c'est deux objectifs différents. L'art martial, la manière dont il a été créé, son but premier.
Ouais.
Et derrière, la compétition, tu vas pas le pratiquer de la même manière.
Moi,
j'ai grandi dans le 20e, côté de Porte de Montreuil. Et donc, j'avais juste derrière chez moi Lee Kuan Yong, que je croisais tous les jours, que je connaissais bien avec son club et tout ça. J'avais essayé d'ailleurs ses cours à une époque et... Lui, il était à fond dans le côté très militaire, dans la discipline, tu vois.
La baguette.
Ouais.
À la baguette.
Discipline,
tu vois.
Et donc ça, typiquement, c'est pas quelque chose qui est adapté à la culture française. Après, ça l'a pas empêché d'avoir du succès et tout ça, parce qu'il y a, paradoxalement, il y a aussi des gens qui... c'est presque le cliché de l'art martial, tu vois, oriental, avec le maître asiatique qui est hyper dur avec ses élèves et tout ça. Donc il y en a, ils étaient presque contents... de vivre un truc presque comme dans les films,
c'est ça.
Où le maître, il est dur.
On vient chercher l'exotisme.
C'est ça. Tu vois. Alors que tu t'adaptes au fonctionnement peut-être de la société française, ça va être mieux parce que tu vas peut-être apprendre plus facilement, dans de meilleures conditions et tout. Mais peut-être que ça va pas leur plaire autant. Tu vois.
C'est ça. C'est soit tu gardes ton éthique, tes valeurs, et que tu t'adresses à un certain public qui est dans ce besoin, soit tu vas essayer d'ouvrir ton horizon, faire passer des messages, comme on disait tout à l'heure, et là, tu vas toucher un panel beaucoup plus important de public.
Ouais. Je ne sais pas si c'est Lee Kuan Yong. Qui est-ce qui a ramené le taekwondo?
Lee Kuan Yong,
c'est lui, hein.
Ouais, c'est lui, à la base.
Ouais. Bon, tu vois, je ne savais pas que j'avais l'importateur du taekwondo en France, juste à côté de moi. Et que j'ai croisé un nombre incalculable de fois, mais c'est un personnage, lui.
Oui, une vraie, identité. Oui, il continue, il a une personnalité.
Il fait plus d'apkido aussi, je crois.
Ouais, il a ce côté apkido traditionnel, il a dirigé pendant un moment la commission de taekwondo française, avant que ça devienne FFTDA, et que ce soit associé à la FFKMA aussi.
Il me semble, alors après je ne le connais pas très bien, mais il me semble qu'il est pas fan du taekwondo compétition, lui. Hein.
Forcément, il est très traditionnaliste.
Ouais.
Et le taekwondo compétition est complètement sorti de ce qu'on a pu connaître il y a encore 10 ans du taekwondo. On est passé à l'électronique.
Ça, toi, ton époque, c'était...
Moi, c'était...
J'ai connu l'électronique. Ouais.
J'ai fait cette transition entre 2000 jusqu'à 2008. C'était les plastrons, on portait les coups réellement. C'est le chaos, même si aujourd'hui, on peut aller jusqu'au chaos. Mais aujourd'hui, taekwondo est passé d'un sport de percussion à un sport de touche.
Ouais.
Avec les capteurs électroniques, où tu dois aller chercher les coups à la tête parce que ça rapporte plus de points. Multiplier les touches, des fois on reconnaît plus le taekwondo.
Parce qu'il y a de l'électronique dans le casque aussi.
L'électronique dans le casque, dans le plastron et dans les et des capteurs au niveau des pieds, des pitaines.
Okay, ouais.
Voilà, Donc, donc ça devient un peu de l'escrime des jambes, quoi.
Ouais. Bah, c'est des... Parfois, c'est l'image que les gens avaient. Il y a une fédération aussi, une autre fédération. De
ITF, ouais. International. Oui, voilà, c'est plus près du kickboxing, ouais. On va dire. Ouais, ouais.
Que je les ai vus des fois sur boxing, ring, ouais. Affronter d'autres styles.
C'est ça. Ouais, ça punch, ça coup de poing au visage. Ouais, c'est assez percutant quand même.
T'as déjà tourné avec des gens de cette fédération ou pas, toi?
Non, jamais. Non, jamais. Peut-être au début, quand je faisais des compétitions, quand j'étais dans le Val d'Oise, ouais. Où il n'y avait pas forcément de fédération. Ou les premiers championnats où il y avait des mecs du Kwenkido, des mecs ITF et tout ça, ouais.
Mais, et t'as commencé à quel âge ?
Je commençais à 14 ans.
Ah, donc t'as pas commencé si jeune que ça ?
Non.
Pour un parcours comme ça, on peut se dire que parfois que...
Ouais.
Tu vois, il faut commencer très tôt.
Mais je pense, si j'ai un message à passer, c'est que ce qui m'a permis, on va dire, de durer, c'est parce que j'ai eu d'autres bases, en fait, en termes de... j'ai fait du basket, j'ai fait du foot, j'ai fait du hand et j'étais un peu assez complet en fait. Ce qui m'a permis d'avoir des prédispositions musculaires qui m'ont permis de transférer dans le monde des arts martiaux.
C'est ça, ouais. Bah, parfois, c'est vrai que se spécialiser très tôt, ça peut te permettre de devenir très bon dans un style, mais tu vas peut-être pas développer autant tes schémas moteurs que si tu fais plein d'activités différentes. Tu vois, comme il y a. En ce moment, il y a Lomachenko en boxe anglaise qui est un phénomène que beaucoup de gens observent. Et lui, c'est un prodige de la boxe. Mais son père, quand son père était coach de boxe, il l'a entraîné pendant plusieurs années. Il a dit, moi, je veux que tu développes tes déplacements. Et il lui a fait faire de la danse russe traditionnelle ou un truc comme ça. Pendant plusieurs années, il a fait arrêter la boxe pour dire, tu vas faire ça et ça va t'aider pour tes déplacements. Et aujourd'hui, les gens, ils le considèrent comme un extraterrestre au niveau de sa mobilité, de ses déplacements et tout. Donc, il est passé par... il a pas fait une ligne droite, tu vois. Ça n'a pas été box, c'est box, danse, clac, et on revient, tu vois. Et donc, ouais, parfois, c'est vrai que je pense que d'être stimulé avec des choses complètement différentes, au premier abord, tu peux dire, ça ne va pas m'apporter. Et en fait, ça t'apporte dans une discipline future ou même dans ta discipline actuelle, quoi.
Oui, moi j'ai cette approche aussi d'aller chercher un petit peu d'autres compétences ailleurs. On sait qu'aujourd'hui le taekwondo ça demande de plus en plus de souplesse, d'aller voir des gymnastes, ça demande aussi tout ce qui est prise de décision, donc on peut aller voir faire du badminton pour complémenter, faire de l'athlétisme pour tout ce qui est travail de pied. Et en fait tout ça fait que cette résultante amène en fait à peut-être à s'affiner dans la performance parce que le sport il change, les règlements de taekwondo ils changent en permanence. Si tu te spécialises trop tôt, comme tu parlais de schéma moteur, c'est difficile de casser ce schéma moteur pour en refaire un autre. Par contre, si tu as l'habitude de t'adapter, être dans cette agilité permanente, tu pourras forcément même passer d'un sport un sport de combat à un autre très facilement, quoi, en essayant de le MMA c'est un peu la preuve. Certains sont en grappling, d'autres en striking et on allait chercher, compenser et finalement ça donne de bons résultats.
C'est sûr que c'est souvent l'athlète le plus agile qui est le meilleur.
C'est
en réalité, peu importe en fait son passé, mais si t'es plus agile, t'as un niveau une vitesse de réaction supérieure, vitesse d'exécution supérieure, même si t'as pas la technique en fait.
C'est ça.
Tu vois, et donc c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles la technique c'est hyper important. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais de développer des schémas moteurs et une agilité et tout ça, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense, en fait.
Ben oui.
Et la technique, elle sert, en fait, pour moi, la technique, elle sert à développer ça. C'est-à-dire que, oui, t'as un mouvement qui devient optimisé et tout, mais c'est surtout, moi, je considère souvent pas mal de techniques comme un outil pour développer ton agilité et toutes tes qualités athlétiques, tu vois.
C'est ça. Et on le voit très bien, parce que souvent, les grandes stars en MMA, UFC et tout ça, il y a quelques années, c'était les grappleurs, maintenant ça devient les strikers. Et ça change en permanence. Si le combattant n'a pas cette capacité à s'adapter, il meurt.
Et moi, ce que j'aime bien, tu vois, avec le MMA, c'est que typiquement, ça a permis de recadrer aussi certaines personnes parce qu'il y en a qui pensaient, par exemple, que le karaté Shotokan, ça valait rien en MMA. On a eu Lyoto Machida qui arrivait, qui mettait des KO, machin et tout.
C'est ça.
Les gens, ils pensaient aussi, même si ça te plaira pas, mais que le taekwondo ou MMA, ça marchera jamais. Ouais. Et puis, il y a Ben Anderson qui a un gros passé de taekwondo. Il y a Pettis, Je sais plus, il y en a peut-être. Il y a un jeune là, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si c'est pas Oliveira ou un truc comme ça, qui fait des trucs de malade, qui passe des 360 et tout à l'UFC. Et donc, alors ils font pas du pur taekwondo, mais ils arrivent à utiliser des techniques de taekwondo et surtout, tu vois ce qu'ils ont réussi à développer comme capacité athlétique, la vitesse des appuis, d'exécution, le timing, machin et tout.
Ouais.
En changeant un peu leur manière, il y en a, ils ont pris des coups de pied un peu plus box-style et tout, mais ils gardent les qualités du taekwondo et c'est ultra efficace, tu vois.
Oui, ça peut être efficace, avec une prise de risque forcément plus grande, parce que quand tu donnes le dos ou tu vas aller chercher une 360, c'est très compliqué. Par contre, quand ça touche, ça me fait penser un peu au combat de Michael Page.
Ouais.
Venom.
Ouais.
Moi, j'adore ce côté. Pas dans les valeurs parce qu'il est un peu. Exactement. Mais par contre, il fait des choses. Quoi. Et moi, ça, c'est ce que j'aime en fait dans le MMA, ce côté aussi. Il y a des personnalités. Et comme tu dis, peu importe la discipline, c'est l'humain. C'est celui qui pratique, qui en fait son art en fait.
Ouais.
Donc ça, c'est important pour moi.
Donc toi, tu suis quand même un peu le MMA, tout ça.
J'aime bien.
Tu t'intéresses à d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat.
Ouais, j'ai essayé un petit peu à un moment quand j'ai arrêté ma carrière, en 2013 en fait. Je me suis dit, il faut que j'aille faire quelque chose de différent déjà. Je ne peux plus continuer à faire du taekwondo pour le plaisir, parce que j'étais tellement formaté pour la perf, donc faire du taekwondo pour le plaisir, c'est pas possible. Donc je me suis mis au jiu-jitsu brésilien.
Ok.
Mais j'ai pas pu continuer parce que, bon, la vie, le boulot et tout, mais j'ai adoré, quoi. Et
complètement à l'opposé de ce que
complètement
tu fais,
à l'opposé, parce que j'ai encore cette image du combattant, du guerrier parfait. En fait, je vis de rêve, en fait. Moi, c'est comme ça que j'avance, quoi. J'ai encore des modèles, j'ai encore envie d'apprendre. Je pense pas être arrivé au maximum de mes capacités. Je me dis, j'aimerais bien travailler... le corps à corps, le grappling, et je me suis dit, allez.
Alors là, pour le coup, les capacités athlétiques que tu as développées, peut-être pas tant que ça, parce que c'est très différent.
Exactement.
C'est pas les mêmes fibres musculaires, c'est les appuis, t'es au sol, donc tes appuis, c'est plus du tout les mêmes, donc tout ce que tu as développé, tu repars de zéro. Quoi.
Même l'état d'esprit, je vais te raconter une anecdote, ça va peut-être te faire rigoler, j'en ai fait, au cercle tissier.
Ouais, ok.
À Vincennes et tout, c'était pas trop loin de chez moi et tout, et donc je m'y suis mis, avec la motivation et tout, et je me suis fait mettre KO en fait. Tout simplement parce que je me faisais étrangler et moi je tape pas. C'est pas possible dans mon état d'esprit. Et je me suis retrouvé complètement étourdi. Et le mec il dit, faut taper.
Ouais. Bah, oui.
S'il m'avait fait une clé, j'aurais le bras. J'aurais pas tapé. Tout ça, c'est question d'état d'esprit. Et en fait, ça m'a fait comprendre qu'il faut que je fasse reset en fait pour pouvoir réapprendre et changer d'état d'esprit et ça prend l'humilité aussi,
c'est ça que je voulais dire.
c'est important,
le JJB, c'est ça qui est génial je trouve comme style, tous les styles de soumission, tu peux pas faire un style comme ça et jamais te faire soumettre, et surtout tu vas te faire soumettre très très régulièrement, tu vois, sauf si tu tournes jamais avec personne ou que des plus faibles, mais ce qui peut pas arriver, tu débutes, t'es forcément parmi les plus faibles. Et ça t'apprend à gérer la défaite d'une manière complètement différente et à retirer un peu ce côté
orgueil mal placé, que tu as en
plombant en
percussion.
Ouais, oui.
La percussion, bon, le chaos, c'est un hasard.
Ouais.
Mais comme tu dis, la soumission dans grappling, c'est normal. Et tu vois, ce côté-là, moi, c'est pour ça que j'ai été chercher. Cette discipline, quoi.
Ouais, mais c'est à part, hein. Je pense que c'est vrai qu'heureusement qu'on va pas se faire mettre KO aussi souvent qu'on se fait soumettre en JJB, sinon on serait plus capable de parler, on aurait plus de neurones, quoi. Si un débutant, il devait en pied-point se faire mettre KO à chaque fois qu'il fait une erreur, déjà il continuerait pas. Et puis il pourrait pas pratiquer très longtemps parce qu'on connaît les effets quand même néfastes des chaos sur le cerveau, quoi, tu vois, donc
cerveau tilt. C'est clair. Non c'est vrai j'adore cette approche. Et en plus le JJB, l'approche, c'est aussi le côté comme je te disais tout à l'heure, le côté jeu d'échecs, stratégie. Tu vas amener là pour ouvrir la garde à ce niveau-là, mais en fait t'as 2-3 coups à l'avance et en fait l'intelligence que ça amène, c'est ce qui me fait pour moi c'est la quintessence, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que c'est très proche d'une partie d'échecs avec ton corps, quoi.
Ouais,
c'est génial, hein, et puis ce que j'aime beaucoup aussi, moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois, même si c'est un style que j'ai pu pratiquer il y a longtemps, maintenant je fais plus de la lutte, j'ai dû faire des choix. Et moi, c'était un peu traumatisant pour moi, le JJB. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un art vivant. C'est-à-dire que régulièrement, tu as des nouvelles techniques qui apparaissent et tu as parfois des choses qui fonctionnaient très bien. Et puis, il y a un mec qui sort avec un contre, une technique. Souvent, des fois, il va même donner son nom à la technique. Et ce que tu faisais avant, ça devient un truc à plus faire, sinon tu te fais soumettre à chaque fois.
C'est ça.
Et c'est ça qui fait que les gens vont pouvoir pratiquer de longue date, pendant de longue durée, tu vois, sur ce style-là. C'est parce que c'est jamais fini.
Évolutif.
Ouais.
Comme une mise à jour de smartphone, en fait. Constamment.
Ouais. Exactement, ouais. Et du coup, c'est un style que j'adore et que je recommande toujours aux gens. Je trouve ça hyper intéressant.
Même physiquement, j'ai été donner des cours un peu à Los Angeles et tout, et c'est un mec qui fait taekwondo, mais c'est JJB. Et il m'a fait pratiquer l'échauffement. Ouais. Je parlais d'endurance spécifique. Rien à voir. En 10 minutes, j'étais déjà KO, quoi. Des fois, l'échauffement, il a duré une heure, plus que le cours lui-même.
Eh oui, non, mais
c'est fou, ça.
Ouais, c'est clair. Et puis, c'est vrai que comme c'est des fibres complètement différentes, des filières énergétiques différentes.
Ouais.
Moi, je sais que les premières fois, j'ai suivi les UFC depuis le début, tout ça. Donc après, on s'y est mis par nous-mêmes avec des VHS, des trucs comme ça et tout. Et les premières fois où tu fais des sparring, où tu alternes des phases de sol, tu te relèves et tu fais « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est si lourd ? Ça réagit plus, tu vois ?» Il te faut un certain temps d'adaptation, tu vois, pour avoir cette capacité de passer d'utilisation de certaines fibres musculaires, de certaines filières énergétiques à une autre. Ouais. C'est complètement différent, tu vois. C'est comme si tu t'alternais un peu un marathon avec un sprint, tu vois.
C'est ça, ouais.
Et constamment comme ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que les athlètes de haut niveau en MMA, ça fait partie des athlètes les plus complets. Parce que les demandes, le niveau de spécialisation au final est moins présent que dans d'autres styles. Il faut être bon dans un spectre hyper large, tu vois. Donc c'est super dur, tu vois.
Oui. De toute façon, ça va aussi avec l'époque, ce côté où on ne doit plus se spécialiser, mais on doit être adaptable ou maîtriser différents domaines, quoi. Pour rebondir sur autre chose, moi, ma fille, elle ne veut pas faire de gym, elle ne veut pas faire de théâtre, mais par contre, elle veut faire activité comédie musicale.
Ouais.
Savoir chanter, savoir danser et savoir jouer au théâtre. C'est un petit peu ça, le MMA aujourd'hui. Ça correspond à vraiment une sorte de mode, une sorte de besoin où les gens, ils n'ont pas besoin d'aller dans une discipline spécifique pour pouvoir se faire plaisir d'une certaine façon.
Elle a quel âge ?
Elle a 10 ans.
10 ans ?
Ouais.
Tu as essayé de l'intéresser un peu au taekwondo ou pas ?
Non, pas du tout.
Pas du tout, t'as
non,
pas essayé. Du tout.
Non.
Elle sait ce que tu fais.
Oui, c'est ce que je fais.
Ça l'a jamais piqué la curiosité. Je dis ça parce que moi, j'ai une fille là de 7 mois, donc j'essaie de me projeter. Moi, j'aimerais bien l'intéresser. J'aimerais bien qu'elle pratique des arts martiaux, des sports de combat assez tôt, tu vois. Et je suis en train d'essayer de mettre au point un plan.
Ouais, moi en fait, moi je me dis, par rapport à mon parcours, déjà, je ne veux pas lui mettre la pression. Je ne veux pas lui mettre la pression et je me dis, si elle fait un peu de danse, si elle fait d'autres activités, elle aura, comme on l'a expliqué tout à l'heure, développé certaines qualités motrices, physiques, permettra peut-être ensuite, plus à l'adolescence, de se spécialiser. Mais ça, c'est pas vrai pour tous les sports.
Non.
Par exemple, la gym, ou le tennis, par exemple, où c'est des sports avec une sorte de finesse, une approche, si tu commences pas très tôt, t'arriveras jamais au niveau, quoi.
Ouais, gymnastes, c'est vrai que...
Ouais. Donc, les arts martiaux, on a quand même cet avantage de pouvoir le pratiquer un peu plus vieux et peut-être être performant, quoi.
Ouais, il y avait... comment il s'appelait ? Mon Chipour en boxe anglaise de mémoire, j'ai plus son nom complet, mais qui a commencé à 18 ans ou 19 ans la boxe anglaise. En général, on dit que c'est tard et qui a fait champion du monde, tu vois.
Oui.
Donc, c'est vrai que tu peux, en étant besogneux, travailleur et quand même un minimum doué, je pense aussi, commencer tard et puis, avoir des super résultats là où dans d'autres sports, la gymnastique. Je pense pas que ça soit arrivé à quelqu'un qui a commencé à 15-16 ans et puis qui fait champion olympique.
Oui, c'est clair.
Mais des fois, 15-16 ans, c'est presque à la fin de leur carrière. Donc
ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de vérité toute faite, en fait. Ouais, t'as un rêve, tu peux le transformer en objectif, et voilà. Et tu parlais de mon chipo, ouais, c'est un bel exemple de mec, voilà. Peut-être qu'au départ, la boxe, c'était pas ça, et finalement, avec, comme tu dis, avec le travail, l'investissement, un bon coach aussi, l'environnement, bah, il arrivait au sommet, quoi. Et ça, c'est beau, quoi. J'aime bien, j'aime bien les légendes comme ça, moi.
Ouais, ouais, bah, moi, j'adore aussi, parce que, en plus, c'est des exemples que tu peux citer, parce que. Moi, ça me fait rire, je reçois souvent des messages de personnes qui me disent « Est-ce que je suis trop vieux pour ?» Et, mais alors, des fois, ils sont trop, ils me demandent ça, ils ont, il y en a qui ont 25 ans, hein, tu vois, ou 20 ans presque. Parce qu'ils ont cette image que si t'as pas commencé, t'as pas été à Shaolin à 4 ans, tu vois, ça sert à rien, c'est trop tard, c'est foutu, tu vois.
C'est ça.
Et les gens, ils se mettent des barrières psychologiques comme ça. Alors, est-ce que c'est aussi des mécanismes de protection pour se dire « Ah, j'aurais bien aimé, mais bon, de toute façon, c'est trop tard, tu vois. »
Ouais.
Et du coup, tu tentes pas, tu vois. Et donc, si tu tentes pas, bah, tu te mets pas face à un échec potentiel.
Ouais.
Mais
toi, ils ont des idées préconçues, oui, souvent sur tel ou tel sport. Ouais, il faut casser un petit peu ces préjugés. Ouais, moi aussi, des fois, j'ai taekwondo, ça demande beaucoup de souplesse. Ouais. Mais bon, après, il y a différentes pratiques, différentes façons. Mais alors, quel est ton objectif, quoi?
La souplesse aussi. Moi, alors ça, alors, taekwondo, tu dois l'avoir encore plus. Ouais. Mais moi, je l'ai, je sais pas, dans le kickboxing. Ah non, je voulais faire de la boxe anglaise parce que je suis vraiment raide, tu vois. Et bah ouais, mais en fait, c'est pas une fatalité, ça se travaille.
C'est ça, tu vois, c'est ça. Mais je ne suis pas souple, c'est ça le truc.
Oui, c'est un état permanent.
Tu vois, c'est ça.
Alors, tu seras jamais peut-être le mec le plus souple de la
Terre. C'est ça.
Mais t'as une marge de progression qui va te permettre de pratiquer le style que tu veux. Je te dis pas que tu vas devenir genre contorsionniste ou tu vois. Il y a des natures, et puis des fois, c'est vrai que ça peut être un peu tard. Mais non. Enfin,
on peut toujours évoluer, progresser en fait. C'est
comme
ça,
si c'était c'est un état, je suis pas souple.
C'est ça.
Voilà, tu vois.
Donc c'est un frein, mais oui, mais en contrepartie.
C'est un truc derrière, en fait, tu te caches derrière ça, quoi, plutôt, quoi.
Ouais.
Et soit t'es pas prêt à faire les choses pour que ça change, soit il y a quelque chose que t'as pas compris, faut qu'on te l'explique, quoi. Mais justement, taekwondo sont réputés pour être souples. Moi, je te dis, j'ai eu une opération à 25 ans sur la souplesse, donc je me suis beaucoup intéressé à ça et je suis tout le temps en train de m'y intéresser. C'est quoi, toi, ton approche du travail de la souplesse?
Alors,
parce que c'est une question qui revient souvent. Les gens, ils ont une grosse confusion. Est-ce que finalement le statique, c'est bien? Oui, non, peut-être dans telle situation. Enfin, comment tu...
Il y a différents types d'assouplissement. Il y a les étirements qui préparent peut-être à l'effort avant, et il y a l'assouplissement qui contribue à la récupération musculaire et à travailler l'amplitude articulaire.
Ouais.
Parce que c'est ce qu'on vient chercher souvent dans l'assouplissement, c'est cette amplitude et cette mobilité articulaire. Mmh. Donc, en assouplissant les tendons et les muscles, souvent. Ouais. Moi,
les tendons,
c'est plutôt...
ils ont... petite marge de...
Oui, mais c'est ce qui va permettre de déverrouiller au niveau musculaire. C'est-à-dire je comprends ce que tu veux dire, mais le muscle et les tendons, en fait, ils sont liés. Donc, en même temps, quand tu étires bien le muscle, ou cette élasticité, tu la retrouves, le tendon, il est un peu plus libéré.
Ouais.
Et moi, je suis plutôt dans le contracté relâché, qui permet de déjà prendre conscience du muscle et de pouvoir l'étirer volontairement en associant la respiration et tout ça. Donc, ouais, il y a différentes méthodes.
PNF,
exactement.
Contracté, relâché. Ouais. C'est, je me rappelle bien, c'est un nom, le réflexe myotatique voilà,
qui permet de.
Qui permet juste après une contraction, le muscle ne va pas se recontracter tout de suite et ça te permet d'aller un peu plus loin.
Ouais.
Moi, c'est vrai que j'aime bien ce genre de travail aussi et je le fais des fois sur des contractions plus longues.
C'est ça.
Pour aussi dans une optique de renforcement musculaire dans l'amplitude, dans une amplitude de travail, tu vois. Il y en a qui font du PNF avec des contractions très courtes de 5 secondes et tout, mais tu peux faire des contractions beaucoup plus longues, comme ça tu renforces, tu vois.
Et cette sensation de décontraction, tu la ressens aussi beaucoup plus longtemps, et tu peux aller chercher en amplitude. Voilà quoi.
Tu passes combien de temps, par exemple, parce que les gens ils me demandent combien de fois par semaine, combien de temps je passe sur un exercice. Et c'est vrai que, et pourtant, ça vient de différentes personnes qui sont parfois très souples et tout ça, mais j'ai pas souvent les mêmes réponses. Tu vois, j'avais reçu Lauriane, qui est une championne de tumbling. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le tumbling, voilà. Mmh. Et donc, elle s'étire tous les matins, tout le temps et tout ça, alors qu'elle est déjà très très souple.
Oui.
Elle a une approche à elle et ça va pas être la même qu'un autre qui est très souple aussi, tu vois.
Mais ça dépend de l'objectif d'abord. Ça dépend aussi où t'en es. Donc, ça doit passer par une évaluation de ton niveau de souplesse, l'amplitude articulaire que tu as, donc en fonction de ça. Moi, j'ai tendance, je l'étais pas et je le suis toujours pas, mais déjà, il faut s'étirer tous les jours. Mm. Que ce soit pour récupérer, pour détendre, il faut s'étirer, sauf après une préparation physique musculaire.
Ouais.
Parce que ça, ça permet pas, on va dire, d'optimiser vraiment tout ce qui est développement musculaire. Mm-hmm. Mais le but, c'est de s'étirer tous les jours à la même heure.
D'accord, à la même heure.
Voilà. Moi, je le faisais à peu près 15-20 minutes en fonction des besoins tous les mm-hmm. jours. En essayant de varier aussi les chaînes musculaires.
Ouais.
Donc, quadri, dos, voilà, ischio, psoas, fessier, tout ça. Donc ouais, 15-20 minutes, voilà, je m'étire un petit peu, du moins, je m'assouplis un petit peu avant l'entraînement.
Ouais.
10 minutes avec un échauffement hyper dynamique.
Ouais.
Et je vais même aller chercher en balistique, mm-hmm. souvent. Et après, en relâchement musculaire, je vais essayer de passer aussi 10 minutes après un entraînement. Après, hors entraînement, le matin au réveil, je prends l'habitude de me réveiller un peu tôt pour m'étirer, respirer, m'étirer, mm-hmm. me centrer sur moi-même, méditer aussi, et ouais. ça permet de vraiment relâcher tout le corps, et ça peut durer au moins 30 minutes.
D'accord. Voilà. Tu médites en t'étirant ou tu médites à part
Je médite en m'étirant aussi et je peux méditer aussi à part. Voilà. Ça me permet, quand je dis méditer, c'est plus me centrer sur moi, prendre conscience et pas laisser mes pensées, mon esprit divaguer dans tous les sens. Quoi. Mais vraiment me recentrer sur mon environnement, ma respiration et ça, même mon plan ouais. d'action pour la journée.
C'est
quoi.
Ça, c'est un bon moyen pour commencer ta journée.
C'est ça, toi. C'est ça, exactement.
Ouais, tu te centres dans ton corps, tu prends conscience de tous tes muscles en t'étirant.
Voilà.
Et en même temps, tu prépares ton esprit, tu le libères et tu le prépares.
Voilà, exactement.
Ouais, c'est bien.
Et des fois, en influence sur le corps, tu influes sur le mental.
Ouais.
Et inversement, sur le mental. Ouais. Voilà, exactement. Donc, quand tu joues sur les deux, ouais, tu vas aller chercher cet équilibre.
Les gens, ils pensent souvent ou dans un sens ou dans l'autre.
Ouais.
Tu vois, ils pensent qu'en étant bien dans leur corps, ils vont forcément aller bien dans la tête. Et c'est pas toujours vrai.
Ouais.
Et vice versa, en étant bien dans la tête, ils vont être bien dans leur corps.
Ouais. Ouais.
Et. Ça marche peut-être mieux dans ce sens-là, mais, mais je pense que non, il faut essayer de faire les deux.
Tout un équilibre. Quand tu vois Yin et Yang, ben c'est un peu, moi, c'est un peu cette philosophie. Quoi. Pour parler diététique, il y en a qui vont supprimer le sucre ou les graisses, mais pour moi, tout a un équilibre. C'est jamais trop en faire. C'est juste un petit peu se faire plaisir, mais aussi contrôler un petit peu ce qu'on mange. Pour l'étirement... pour la respiration, pour le mental, pour la préparation physique, il faut essayer de trouver le bon compromis, en tout cas.
Justement, la diététique, c'est un sujet aussi qui me passionne et qui intéresse souvent les gens. Donc toi, c'est quoi ton approche globale de la diététique? Comment tu la définirais?
Pour moi, la diététique, c'est avant tout le carburant. Mmh. Le carburant, ce que tu manges, ce que tu mets dans ton corps, c'est ce qui va donner ton énergie. Mmh. J'ai la chance d'avoir une femme qui est médecin du sport et nutritionniste. Donc,
pratique, ça, en plus.
Auparavant, je t'avouerais que... pas que je faisais n'importe quoi, mais je mangeais pas de façon équilibrée. Je suis antillais, moi j'aime les féculents, les pâtes, le riz et tout ça. Donc, le truc qu'on se disait, un sportif, avant une compétition, doit manger des pâtes.
Ouais, ça, les pâtes. Quoi.
Voilà. Le truc, Sauf que c'est pas forcément vrai. Moi, je dirais qu'il faut privilégier le riz. Qui est un aliment non transformé, qui est mieux assimilé par le corps, l'organisme, que les pâtes. Parce que souvent, des fois, on ne le sait pas, mais on peut être plus intolérant au gluten et tout ça. Donc, voilà, quoi. Donc, et après, il y a l'apport calorifique. Je me disais, pour faire un régime, même si j'étais chez lourd, j'essayais d'avoir un poids de forme. Donc, je me disais, allez, si je mange un Snickers, il fallait que je fasse le même effet pour perdre le poids. Alors que c'est pas vrai. C'est pas parce que tu vas faire 1h30 de footing que t'auras dépensé ce Snickers. Concrètement, c'est pas aussi vrai que ça, en fait. Donc, m'a permis d'équilibrer. Et un aliment qui est cru n'a pas la même valeur nutritive que lorsqu'il est cuit, en termes de glucides.
Ouais. Par exemple, les carottes sont beaucoup plus sucrées cuites que crues.
Tout à fait, exactement. Ouais. Et quand tu assimiles légumes... glucides, peut-être que tu baisses l'indice glycémique. En gros, elle me conseille de répartir un peu le plat entre protéines, glucides, et vraiment d'équilibrer un petit peu. Donc, en gros, c'est du riz, des légumes, un peu plus de légumes et un peu de viande. Privilégier les viandes blanches et les œufs. Parce que les œufs, c'est vraiment le.
C'est la protéine de référence.
Ah, exactement. C'est complet. Ouais, et puis même. En termes d'acides aminés aussi, que le corps ne produit pas naturellement. Certaines. Les œufs sont.
Même,
sont
il
la
me semble,
base.
Si je dis pas de bêtises, c'est que quand tu as, exemple, si tu prends de la whey, des trucs comme ça, tu as un indice de 100.
Oui.
Tu vois ? En fait, l'indice de 100, là, c'est l'indice de référence, c'est l'œuf.
C'est ça, exactement. Semble, hein, si c'est exactement bêtises, ça. Hein. Tu as tout à fait raison. Mais tu es calé, toi. T'es bon.
Donc ouais, moi je mange des œufs tous les jours. Il y en a qui vont dire quoi, hein, le cholestérol et tout. Tout à fait. Ça c'est pareil. Ça a été plus ou moins démenti que c'est pas le cholestérol alimentaire n'est pas responsable du cholestérol sanguin. Si je dis pas de bêtises,
c'est ça.
J'espère.
Ouais.
Mais en tout cas, moi c'est ce que j'ai lu et je mange grosso modo 2 œufs tous les matins depuis pas mal de temps et tout va très bien.
Et il y a de bonnes graisses aussi, il y a de très bonnes graisses, saturées, non saturées, il faut savoir faire la différence. Quoi qu'il en soit, il faut savoir aussi se faire plaisir. De temps en temps, une pâtisserie, une pizza, voilà, des frites, ça peut arriver, mais bon. Après, quand tu commences à prendre conscience des effets de ces aliments sur le corps... Moi, j'ai déjà... en fait, dans ma carrière, j'ai testé. J'ai testé une compétition où t'as mangé un bon plat de pâtes et des frites et de la viande rouge, et une compétition où t'as essayé d'équilibrer protéines, légumes. Bah, c'est pas la même chose. Quand je parle de carburant, c'est ça, en fait. Soit t'as du kérosène, ou soit t'as du diesel de merde dans le truc, et t'es encrassé, quoi.
Et c'est marrant, parce qu'au final, c'est même pas un... C'est pas un truc qui est si instinctif pour pas mal de gens, même pour des médecins, tu vois. Par exemple, je sais plus quel médecin célèbre, mais qui disait que le premier médicament, c'est ton alimentation, tu vois. Beaucoup de médecins vont pas d'abord aller explorer, te poser des questions sur ce que tu manges quand tu vas avoir des problèmes de santé, tu vois. Ils vont te faire des examens, tout ça, mais la question de qu'est-ce que tu manges concrètement, elle va arriver quand t'as un vrai problème, vraiment un taux de cholestérol de malade, des choses comme ça, tu vois. Et même l'autre fois, j'ai fait un truc moi, que j'appelle le cercle privé, où j'envoie des emails tous les jours aux gens sur plein de sujets différents, et je parlais de comment gérer la fatigue. Et à un moment, je disais dans l'email, si vous avez tout le temps un coup de pompe après votre repas du midi, machin, tout ça, en fait, déjà, peut-être regardez ce que vous mangez, c'est que ce que vous mangez, ça vous fait un pic de glycémie qui retombe derrière.
C'est ça.
Et il y en a qui disent, ah ouais, moi ça doit... Et en fait, il y en a plein qui m'ont répondu, en disant, ah ouais, putain, j'avais pas pensé, tu vois. T'avais pas pensé, tu manges... Une demi-heure, trois quarts d'heure après, t'es là. Oh là là, c'est dur de garder les yeux ouverts. Ouais, et en fait, tu fais pas le lien. Tu te dis, ouais, en fait, c'est le début de l'après-midi, je suis fatigué.
Tout
c'est
à
comme
fait.
Ça, tu vois.
Ou j'ai mal dormi,
ouais,
la
j'ai
fatigue.
Mal dormi,
ou,
et tout ça,
ouais, c'est
alors
sûr.
Alors qu'en fait, effectivement, c'est le carburant que tu mets dans ton corps. Et soit, soit ça tourne bien, soit ça tourne pas bien, quoi.
Mais il faut se poser la question, en fait.
Ouais,
c'est ça le truc. C'est qu'il faut d'abord avoir ce côté critique de se dire, mais qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce qui va contribuer à avoir une meilleure santé, quoi ?
Ben surtout, ce qui est dur, c'est que c'est très, très individuel aussi. C'est-à-dire qu'il y en a, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu vois, il y en a qui vont penser que, aussi en fonction de... Bah, tu disais, toi, t'es réunionnais, t'aimes les féculents et tout. Parfois,
Martiniquais.
Martiniquais. Que t'aimes les féculents. Et il y en a qui pensent que, justement, des fois, ton héritage culturel, ce que tes ancêtres ont mangé depuis longtemps et tout... C'est quelque chose que tu vas bien tolérer et qui peut-être pour quelqu'un d'autre chez qui c'est mal toléré, lui ça va pas aller, mais toi tu peux manger ça et ça va aller très bien pour toi, tu vois. Je sais pas si c'est vrai ou pas.
Moi je dirais que c'est une pensée mais j'ai appris aujourd'hui qu'est-ce que l'épiphénomène
l'épigénétique,
c'est exactement et l'épigénétique qui fait que ton corps va s'adapter à ton environnement, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que, l'environnement pollué, les problèmes d'alimentation et tout ça vont créer des troubles qui seront liés à tout ça, quoi. Donc, t'as un capital, mais ton capital, tu l'uses très rapidement, quoi.
Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, l'épigénétique, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais grosso modo, on a donc tous les mêmes gènes, les mêmes types de gènes et qui vont pouvoir s'activer ou pas s'activer.
C'est ça.
Et l'environnement va aussi influer sur l'expression de ces gènes, en fait.
C'est ça.
Voilà. L'expression de nos gènes. Et il y a des gènes qui vont s'allumer ou s'éteindre en fonction de ce à quoi on est Soumis dans son environnement, mais l'environnement, ça comprend l'alimentation, mais ce qu'il y a dans l'eau, ce qu'il y a dans l'air, même il y en a qui pensent les ondes qu'on a autour de nous, tu vois. Ça qu'on te dit souvent de ne pas avoir trop de trucs électroniques dans ta chambre. Bon, voilà, il y a même, j'ai même entendu, ça je ne me suis pas trop intéressé, qu'il y a des gens qui font une pétition contre la 5G parce que. Il s'est pas prouvé, mais c'est suspecté fortement que la 5G et les ondes sont assez néfastes pour le corps humain, mais qu'on va pas avoir le choix.
Tout ce qui est ondes électromagnétiques, forcément, ça modifie.
Et du coup, tout ça va. J'ai même vu, tu vois, là, bon, malheureusement, ça souvent on n'a pas le choix, mais que tout bonnement à l'aéroport, passer dans les radars. Comment ça s'appelle
les portiques.
Les portiques, voilà.
Ouais, de sécurité.
À chaque fois, ça abîme ton ADN, en fait. À chaque passe. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est interdit aux femmes enceintes. Mais en réalité, c'est interdit aux femmes enceintes, c'est pas bon pour les femmes enceintes, mais c'est pas bon pour,
c'est clair.
Pour personne en fait. Mais c'est juste qu'ils se disent, bon, c'est moins grave.
Et
ça, pareil, ça va faire partie de l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est ton environnement. Si tu passes, ceux qui travaillent aux aéroports et qui passent tout le temps par les trucs, alors eux, je pense qu'ils doivent pouvoir les éviter. Mais typiquement, de passer par ça, ça abîme à chaque fois un petit peu plus ton ADN, tu vois.
D'accord.
C'est fou, quoi.
Ah, ça promet.
Ouais.
On sera les survivants, les derniers.
Ceux qui voyagent beaucoup.
Ils prennent des ondes. Les radios aussi, les scanners, tout ça, ça contribue à des fortes doses de radioactivité souvent aussi. Donc on compte des conseils.
Pour donner quelques conseils, du coup, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de base, même si c'est souvent, comme on a dit, très individualisé, mais d'après toi, que ce soit pour les sédentaires ou même pour les sportifs, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu as vues au niveau de l'alimentation?
Au niveau de l'alimentation, comme je l'ai dit, c'est privilégier un aliment plus que d'autres, en fait. Et je pense que ce qui est important, c'est de tout goûter, de tout essayer, de tout mettre, varier son alimentation, en fait. Parce que en fonction de l'aliment, on va avoir telle ou telle protéine, acide aminé, et que le corps, il a besoin de cet équilibre, et c'est le mot qui reviendra constamment de ma bouche, et équilibrer, en fait, pour pouvoir un peu avoir tout et que le corps puisse être nourri dans son intégralité.
Parce que c'est vrai que c'est la mode, il y a plein d'approches diététiques différentes et c'est la mode de ces approches souvent, elles reposent sur l'exclusion d'un type ou d'une famille d'aliments. Après, il y a la manipulation de la fréquence des repas, donc il y a le jeûne intermittent, tout ça.
C'est ça.
Je dis pas que ce soit bien, pas bien, mais c'est le constat qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est difficile parce que t'as tout le temps plein d'études qui vont dire oui ça c'est vrai, oui ça c'est vrai, mais en fait les deux disent oui c'est vrai mais disent l'opposé, tu vois. Donc il y en a qui vont dire oui le jeûne intermittent c'est hyper bon, il y en a qui vont dire en fait si sur 24 heures l'apport calorique est identique, que tu manges en une fois ou en cinq fois, ça change rien. Il y en a même qui vont dire que c'est limite mieux de manger plus régulièrement dans la journée, je sais plus, c'est pour la synthèse protéique, je crois. Et d'autres qui vont dire non,
le jeûne intermittent. En fait,
voilà. Il y en a qui vont dire non, le jeûne intermittent, ça crée l'autophagie, donc la réparation cellulaire, machin et tout ça. C'est vachement bien, tu vois.
J'ai entendu parler aussi de tout ça. Mais en fait, comme c'est tu me dis, évident. Si c'est pour un sédentaire, autant utiliser quelque chose, ne pas aller forcément. Et aussi, pour les autres, s'ils ont la possibilité, mais de tout tester, en fait. Qu'est-ce qui t'interdit de tester et voir un petit peu comment ton corps réagit. Je pense qu'on est notre corps, c'est notre premier laboratoire, en fait. Donc moi j'ai un pote, il est sur les régimes cétogènes, il teste, il note comment il a réagi et tout, et il se fait son propre kiff, sa propre étude, et à la fin il adaptera son alimentation en fonction des bienfaits en fait du régime, quoi.
Mais c'est pas toujours évident, moi j'ai testé plein de trucs, j'ai fait cétogène, tout ça, mais c'est que parfois tu te mets à tester, et alors moi c'est mon leitmotiv de dire de garder toujours l'esprit ouvert, mais tu te fais quand même influencer, t'as lu plein de trucs. On me dit, et t'as des preuves scientifiques, et c'est génial, et les résultats, c'est ça, et machin et tout. Et du coup, tu sais, t'as un peu l'effet du placebo, c'est-à-dire que tu testes un truc, et t'es tellement convaincu que ça va marcher, que ça marche.
Oui. Tu vois.
Et parfois, plusieurs mois plus tard, tu te rends compte que t'es moins bien qu'avant, mais tu l'as plus ou moins ignoré parce que t'étais convaincu, tu vois.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais ça te donne une expérience et un recul qui te permet de dire, ça j'ai essayé, mais ça après coup sur la durée et tout ça.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on peut être, du moins tu as un coach intéressant, pourquoi? Parce que tu as testé sur toi-même et tu peux aujourd'hui prodiguer des conseils avertis parce que il y a ce recul, en fait.
Ouais.
Je veux dire, si tu l'as vécu et tu veux dire, voilà, je peux tester ça, teste ça, voilà, va dans cette direction, peut-être que celle-là t'ira pas, mais au moins, tu l'as essayé, quoi.
Ouais.
Et après, voilà, après, c'est important. Et en grandissant, je pense que l'expérience, elle sera encore plus étoffée et tu auras peut-être ta propre méthode, en fait.
Mmh. Ouais, après, tu peux essayer de faire des synthèses.
Des synthèses, et voilà.
Ouais, ouais.
Mais voilà, on est tous différents et on a des approches. On a besoin de conseils, de personnes qui vont permettre de nous orienter dans une direction.
Mmh.
Moi, je suis plutôt un coach boussole et pas un coach GPS.
Ouais.
La différence,
pas mal comme image. Ouais.
Le GPS, il va dire va à droite, va à gauche, va devant, tourne à gauche et la prochaine. Et l'espace boussole, il va juste te donner la direction, le nord. Ben, exprime-toi.
Ouais. Ouais, mais j'aime bien cette image. J'en avais parlé aussi dans un autre email où je disais ce qui est important, c'est la direction qu'on prend et de pas parfois attendre en fait les résultats tout de suite, mais c'est de se dire tous ces petits actes au quotidien où je décide de mettre en place une nouvelle habitude. Ça m'emmène dans une direction qui, je sais, est la bonne, ou du moins celle qui va m'amener là où je veux arriver. Quoi.
C'est ça.
Et de pas, par contre, vouloir tout de suite produire un résultat immédiat. Les gens sont, tu sais, trop dans l'immédiat aujourd'hui. Ouais. On aime que tout aille vite.
Ouais.
Mais il y a des choses, c'est pas parce que ça fonctionne pas tout de suite, c'est une addition, tu vois.
Ouais, c'est des petites victoires, en fait, accumulées, additionnées, qui vont nous amener à l'objectif, en fait. Et à un moment, on se retrouve en haut. Rocky encore, on a franchi les marches, merde, j'y suis arrivé.
C'est l'effet cumulatif de plein de toutes ces actions, quoi. Et c'est vrai que cette image-là d'avoir la bonne direction et parfois de se poser la question, allez, j'hésite à faire ça, est-ce que ça va dans la direction dans laquelle où je veux aller ou pas, est-ce que ça me rapproche de mon objectif, ou alors au contraire c'est diamétralement opposé et en fait bah non.
Ouais.
Souvent si tu prends le temps de réfléchir, tu vas te rendre compte. Après bon, moi ce que je trouve en fait le plus dur souvent dans l'alimentation, moi c'est un sujet qui me passionne, mais parce que j'ai pas une nature, tu vois, être sec. Donc souvent on veut être ce qu'on n'est pas, tu vois. Comme je sais pas, les filles qui se lissent les cheveux, qui ont les cheveux bouclés, puis les filles qui ont les cheveux lisses, elles veulent les cheveux bouclés, tu vois.
Mais la nature reprend
exemple,
son droit.
Voilà, exemple à la con, tu vois, mais pour te dire ça. Donc moi je suis pas spécialement souple de nature et pas sec, et je voulais être souple et sec, tu vois.
Ouais.
Et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Pourquoi je disais ça? Attends, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Et voilà. C'est le bug.
C'est pas grave.
J'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Ça va me revenir. Mais attends, on était en train de dire quoi juste à l'instant? Toi, tu m'avais dit, tu m'as répondu quoi? On parlait de prendre la bonne direction.
C'est ça.
Bon, tu disais
que on veut toujours être celui
qu'on n'est pas,
en fait. C'était plutôt.
Oui, voilà. Donc, c'était un peu de se dire que moi, ça m'a vraiment obsédé. Et au final, ce que je trouve le plus dur, c'est pas de savoir quoi manger, mais c'est de réussir à manger ce qu'il faut. C'est-à-dire que et c'est pour ça que le fait d'être coach mental, c'est hyper important. C'est qu'en fait, pour moi, le plus important dans la nutrition, finalement, c'est la psychologie.
Ouais.
C'est-à-dire que la plupart des gens, bon, il y en a qui manquent cruellement de connaissances parfois au niveau de l'alimentation, mais ils vont savoir plus ou moins en réalité ce qu'il faut qu'ils mangent.
Ouais.
Mais c'est résister à ses envies, ne pas craquer. Et donc, c'est en fait, pour moi, ce qui n'a pas été encore bien solutionné aujourd'hui pour aider les gens en surpoids à y arriver, ce n'est pas la méthode, quoi manger, combien de fois, à quel moment, machin et tout, mais c'est réussir psychologiquement à se tenir à une approche qui va être la bonne, mais d'une manière générale, après, c'est plus du fignolage. C'est-à-dire que, oui, si tu veux arriver à 5% de masse grasse, là, il va te falloir la méthode parfaite pour toi et tout ça.
C'est ça.
Mais si tu veux juste être en bonne santé et pas être, tu vois, gras de manière excessive, c'est plus psychologique, j'ai l'impression, tu vois.
Ouais, c'est changer un comportement alimentaire.
Ouais.
Et ça passe
c'est
par
très
le
dur.
C'est très, très, très compliqué. Parce
qu'il y a beaucoup d'émotionnel.
Sucre, plaisir, sucre,
c'est
plaisir,
ça.
Graisse, plaisir. Et en fait, tous ces ancrages, tout ce qu'on a créé en nous, des réactions physiologiques, les hormones sécrétées du plaisir à chaque fois qu'on a associé un aliment, fait qu'à un moment, c'est difficile. Légumes verts, des petits.
Ben, c'est ça,
Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut casser. Et recréer un nouveau comportement alimentaire.
Et souvent, quand t'as passé une mauvaise journée, t'as une galère, t'as eu un truc et tout, c'est là où t'as mal dormi, et ben c'est là où c'est le plus dur de résister à, tu vois, à tes envies
primaire. Ouais. Bah, et je reviens sur chocolat, bien gras, caramel et tout ça, et voilà. Et on a envie de se salir en fait. Ouais, moi, ce que j'appelle ça, c'est salir. Et
c'est
je le fais.
Que se punir, hein,
je le fais quoi. Ouais. Je me dis, voilà, j'ai envie de me salir quoi.
Ouais. Surtout, surtout si dans ton enfance, parce que tu vois, moi, ma femme, elle, dans sa famille, ils avaient plutôt une tendance à avoir une alimentation assez saine. Donc elle a moins ces triggers là, tu vois.
Ouais.
Moi, je mangeais tout ce qui était bon, entre guillemets.
C'est ça, c'est
tu
ça.
Vois, et, ouais, et du coup, c'est des trucs qui sont ancrés loin, tu vois,
ouais.
qui remontent à ton enfance. Et ça, c'est des trucs dont tu as du mal à te débarrasser, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est... Ouais, c'est le vrai challenge, quoi.
Ça me permet de rebondir sur nutrition, dit nutrition, dit régime. Parce que nous, dans les sports de combat, les régimes, la catégorie de poids et tout. Mais il y a des trucs qui se font de dingue.
Les cuttings.
Le cutting, ouais. J'ai vu ça, mais c'est une horreur.
Ah oui.
C'est risque même pour de vie et de mort, quoi.
Ah
tu
oui,
vois, c'est
très,
très, très, très dangereux et tout.
Ouais.
Même nous, taekwondo, c'est cadré au judo. J'ai vu des mecs perdre 10 kilos en 2 jours. Où...
Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai posé la question des fois à des combattants pro en MMA notamment. Et je leur disais, mais pourquoi tu fais pas un régime en fait progressif, tu perds ton poids progressivement et à la fin, tu peux faire ton mini cutting, te déshydrater un petit peu si vraiment il te manque.
C'est ça.
Mais ils me disent non, parce qu'en fait, si je fais un cutting, alors si je fais un régime progressif, je vais devoir quand même manger beaucoup moins et tout ça, et je peux m'entraîner moins dur, et donc je fais une moins bonne préparation, et je suis moins bon le jour du combat. Bon. Alors, ouais. Je suis pas complètement d'accord avec ça, mais je comprends. Mais théoriquement, c'est que soit le régime, il est mal fait. Mm. Si t'es complètement léthargique et tout ça, c'est qu'on te cut tes calories trop, trop rapidement ou qu'on t'a retiré tous les glucides ou je ne sais pas, tu vois. Mais bon, voilà, c'est un peu ça, des fois, la logique, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, derrière ceux qui font des cuttings extrêmes, et notamment le MMA, c'est devenu un peu la norme, de 24 heures, 48 heures avant le combat, ils se déshydratent un truc de psychopathe et ils perdent... des kilos et des kilos.
Oui.
Ça c'est... Et en plus, on sait que c'est hyper dangereux.
Oui, des risques pour le cœur, déjà.
Le cœur, le cerveau même, t'es beaucoup plus enclin à te faire mettre KO, parce que t'as une légère déshydratation du cerveau. C'est...
Donc, perte d'attention, prise d'infos mauvaise, et déshydratation, c'est des effets sur la performance aussi, tout simplement. Forte déshydratation, c'est très, très dangereux, quoi.
Et ça me fait penser, là, comme on parlait de l'aspect psychologique, une fois, j'avais lu un livre, j'avais trouvé ça pas mal comme concept, c'est que souvent, tu sais, on se récompense en « Ah, je me suis bien entraîné, je me fais plaisir », tu vois, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'il faut quand même... Tu peux pas être 100% du temps bien et en envie de se faire des plaisirs, et souvent, on se fait plaisir en ayant fait autre chose qui nous... pour avoir une récompense. Et dans ce livre, il disait « Arrêtez de vous récompenser avec la nourriture, vous n'êtes pas des chiens. » Parce que le chien, tu le récompenses...
Tout à fait, avec un sucre ou
un truc, machin,
une
croquette. Et une bonne action, tiens, tac.
C'est vrai.
Et c'est vrai, je fais «
Ouais ». Ouais.
Donc je me comporte en fait comme un chien, tu vois, quand je fais ça, quoi.
Ouais, parce qu'on répond à un besoin, un besoin qui est ancré, comme tu dis, peut-être depuis l'enfance. Donc prends une carotte.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Mais tu vois, toi-même, tu dis que tu le fais et tout, donc c'est vrai que c'est pas facile.
Ouais, c'est pas facile de changer un comportement, mais... Oh, parce qu'on n'est pas au pied du mur, en fait.
Ouais.
Parce que le cutting, certains le font, ils marchent, gagnent, donc forcément, ça, on assimile à ça. Bon, écoute, j'ai pu me faire plaisir, entre guillemets, continuer à manger normalement me déshydrater à 24 heures avant et performer. Pourquoi je le ferais pas? Mais ce que je veux dire de ces grosses déshydratations, ce gros régime, c'est les répercussions à long terme. On fatigue le cœur, le cerveau, comme tu dis, il peut avoir des répercussions. Il y a l'effet yo-yo. Parce que le corps, il enregistre, en fait.
Ouais.
Plus tu fais du cutting, plus la prochaine fois, ce sera de plus en plus compliqué, en fait.
Mm.
Ça s'installe pas tout de suite, mais avec le temps, ceux qui font du cutting auront de plus en plus de mal à se déshydrater. Parce que le corps, il va stocker. Le corps, c'est intelligent, c'est une machine hyper intelligente. Donc, ok, tu m'as mis en galère, ok, je vais stocker différemment, autre part.
Ouais.
Et là, tu galères, et on sait très bien. Et voilà, et tout ça pour dire que oui, nutrition, régime, tout ça, c'est propre vraiment aux arts martiaux, quoi. Mmh. Moi, si j'avais un bouquin à écrire, j'aurais écrit l'entraînement invisible. Tout ce qui se fait pas sur les aires de combat ou à l'entraînement, en fait. Tous les à côté qui sont, pour moi, plus importants que des fois ou aussi important qu'on fait sur, dans les heures de, sur les heures de compas ou à l'entraînement. Quoi.
Bah, il n'est pas trop tard, hein. Tu peux l'écrire.
Non, c'est intéressant. On peut parler de régime, d'hydratation, de récupération, de facteurs exogènes, récupération, sommeil aussi. Tout ça, en fait, qui contribue à la performance. Et moi, je pense que j'ai réussi à performer dans la durée grâce à ça, en fait. Parce que je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que je peux faire lorsque tout le monde dort, en fait, ou que je ne suis pas à l'entraînement. Comment je peux optimiser, en fait, être au meilleur de ma forme, au moment T, en fait. Et ouais, c'est hyper important, tout ça, quoi. Donc, si j'avais un conseil à dire, c'est vraiment essayer de vous connaître un peu plus dans le détail et que le diable se cache dans le détail, en fait.
Mais ça peut être une bonne idée de le faire, ce bouquin.
Ouais, pourquoi pas.
C'est que justement, la fille dont je te parlais, Lauriane, elle avait une histoire particulière. Elle s'était fait une blessure très grave à la colonne vertébrale et tout ça sur un saut raté. Et donc, on a parlé de tout ça, de son parcours. Et elle m'avait envoyé quelques jours plus tard un message après le podcast en me disant « Les éditions Amphora m'ont contacté. Ils voudraient que j'écrive un livre sur mon histoire ou un truc comme ça. Ils ont écouté le podcast. »
Ouais.
Tu vois. Donc, peut-être que si tu as envie d'écrire un livre, si tu trouves le temps, mais si tu as l'envie de partager tout ça, ça peut être intéressant, tu vois.
Ouais, j'aimerais partager un peu l'expérience, quoi. L'expérience du combattant, l'expérience de l'entraîneur, et aujourd'hui, plus axé sur la dimension mentale, psychologique, sportive, quoi.
C'est dommage, on est une somme d'expériences, et je trouve qu'il ne faut pas les emporter avec soi, quoi.
Ouais. Faut pouvoir le modéliser aussi, parce que souvent on parle des transferts, de la performance, mais il faut trouver les mots, la bonne modélisation et la bonne façon de faire passer le message, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est très très difficile.
Ça arrive des fois, mais toi, ça y est, je pense que t'as l'âge de la maturité pour le faire, tu vois. Parfois, on a besoin, il y a un cheminement qui se fait.
Tout à fait.
On commence à tirer ses leçons, on commence à penser, à dire ah si, mais ouais. Pour justement, tu dises, verbaliser bien les choses, tout modéliser, parfois ça demande déjà un peu plus de recul, de ne pas être encore en plein dedans.
Ouais.
Et donc là, toi, c'est ce que tu fais, en fait.
Ouais, une grosse... je suis dans la phase, quand j'ai décidé d'arrêter avec la fédération, j'étais dans la phase, mais...
Mais pourquoi t'as arrêté avec la fédération?
J'ai arrêté avec la fédération parce que j'avais l'impression de tourner en rond, de plus être utile, d'avoir... des compétences sous-utilisées, en fait. De ne pas être en accord avec le projet aujourd'hui olympique. Donc, d'accord. Je me suis dit, en fait, peut-être que lorsque j'ai arrêté ma carrière en 2013, j'étais dans le prolongement de ma carrière en tant qu'entraîneur et que je n'étais pas uniquement fait pour prendre le chrono et siffler, en fait. Que j'avais besoin d'apporter quelque chose de peut-être plus. Et voilà, quoi. Donc, ce n'était pas facile à prendre comme décision. Hein. J'avoue, c'était dur parce que j'ai 44 ans... il faut se poser des questions, mais qu'est-ce que je vais faire après? Et après, à force d'échanges, de rencontres, de confrontations, de valeurs, je me suis dit, mais moi, ce que j'aime, c'est partager, c'est accompagner, c'est transmettre. Et je me suis dit, forme-toi, continue à apprendre, à évoluer, et à partir de là, tu auras toutes les méthodes, tout le savoir-faire, les méthodologies pour mieux transférer. Aujourd'hui, j'ai la chance, en 2 mois, de me redécouvrir. J'ai dû faire une... introspection de dingue. Qui je suis, quoi. Qui je suis comme individu, comme combattant, comme entraîneur. Qu'est-ce que tu as développé? Qu'est-ce que tu peux enseigner? Qu'est-ce que tu peux prendre de bon? Tu peux faire le tri et tout. Et en fait...
Qui je suis et qui je veux devenir.
Et qui je veux devenir et dans quelle direction je m'oriente et tout. Et là, en fait, j'ai le fruit de tout ça. Je suis un peu plus sollicité... J'ai l'opportunité de continuer dans le taekwondo, mais au niveau international, l'Australie m'a demandé, le Sénégal, là je viens de recevoir le Mexique. De venir apporter, on va dire, une dimension, ma méthode en fait.
Comme une sorte de consultant national, c'est ça?
Ouais, je vais en Finlande cet été par exemple, en Finlande pour les apporter ITF, ils veulent passer en WTF. Donc je vais les aider à faire ce transfert. J'ai la Guadeloupe qui m'a demandé de faire un gros training camp sur la Caraïbe.
Ouais.
Donc je pars le 21.
Ouais,
j'ai changé le billet en fait. Okay, j'avais super. Un petit problème. C'est ça.
Pour ceux qui savent pas, c'est le premier d'ailleurs du Fight Camp là que j'organise du 20 au 24 juillet, donc le samedi matin. C'est le premier à venir 10h. Donc tu vas nous faire bien bosser. Sur les déplacements, c'est ça qu'on s'était dit, je crois, pas mal. Déplacements,
ouais. Mobilité, travail de bulle de combattant. Un bon petit mix pour essayer que ce soit assez complet.
Ouais.
Pas uniquement que du taekwondo, mais une approche qui permet de passer d'une discipline à une autre. Quoi.
D'accord. Et alors, question piège un peu. Donc, tu dis tous ces gens-là, ils te contactent et tout. Pourquoi toi, d'après toi, comment ils te contactent et tout? Pourquoi pas, par exemple, un Pascal Gentil ou tu vois? Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui contacte, d'après toi?
En fait, moi, je pense que durant toute ma carrière, j'ai semé des graines en termes de valeurs, de comportements, d'éthique. Je me suis nourri de rencontres.
Ouais.
Je me suis toujours intéressé à l'autre, au comment m'améliorer. Et je me suis toujours posé des questions et les performances aussi, ça aide. J'étais aussi considéré comme celui qui a subi pas mal d'injustices. Et en fait, indirectement, je pense que certaines personnes se sont pris d'affection par rapport à moi, mon parcours, à mon histoire, à ma légende, quoi, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, j'ai réussi à transférer ce côté athlète au niveau avec des résultats. Comme je t'ai dit, j'ai pu avoir champion du monde, champion olympique, champion d'Europe.
Ouais.
Et je communique un petit peu plus aujourd'hui sur ce que je fais, donc cette dimension mentale. Et en fait, peut-être qu'on voit que je suis quelqu'un qui ne s'arrête pas sur des acquis, en fait. Le problème des arts martiaux, c'est l'ego.
Ouais.
Et souvent dans les arts martiaux, c'est un égosystème des fois qui fait que ça complique les choses. Et moi, j'ai pas d'ego en fait. Enfin, je suis bien, je m'assume, mais si je suis bon, je le dis. Voilà, je veux pas mettre plus en avant qu'autre chose. Donc j'essaye de me former, j'essaye d'avoir cette humilité, ce retour sur moi-même, essayer de le partager. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça répond à un besoin, ça répond à des gens qui se disent peut-être que j'ai quelque chose à apporter par rapport à une expérience, par rapport à ce que j'ai pu développer sur le terrain.
Et ça revient, je pense, aussi un peu à ce qu'on disait quand tu disais que tu t'étais mis au JJB, que tu repars débutant complètement au tout. C'est que tu parlais d'ego, et il y a des gens qui ont donc un ego, et puis qui ont atteint un statut qui nourrit leur ego en permanence. Parce qu'ils ont un statut, donc les gens les considèrent, et donc ça nourrit encore plus leur ego qui est déjà là, tu vois. Et le fait de se dire... je quitte la fédération, tout allait bien pour toi, t'aurais pu continuer comme ça, et t'avais ton statut qui était maintenu, quoi. Et là, tu décides d'aller te former, c'est une prise de risque, tu vois.
Ouais.
Une prise de risque. Et il y a beaucoup de gens, je me suis rendu compte en parlant avec plein de coachs, qu'en fait, il y a beaucoup qui rêveraient certaines choses et qui les font pas par peur, soit par peur de prendre ce risque, soit par des croyances un peu limitantes de se dire... « Ah, j'aimerais ça, mais c'est pas possible, en fait, tu vois. » Alors qu'en fait, ça tient à ce que tu dis, ça tient souvent à se former et être prêt à prendre un minimum de risques.
Ouais, ça se tient aussi à la confiance en soi, en fait.
Ouais.
Et je sais pas que j'ai confiance en moi, parce que ce risque-là, il était pesé, calculé, j'ai voulu revenir en arrière, et finalement, je suis soulagé, je suis libéré, je suis délivré, je suis... J'ai passé ce plafond de verre, en fait.
Ouais, c'est ça.
J'ai l'impression d'être sous cloche, en fait.
Mm.
Et là, aujourd'hui, je m'exprime et on me le rend bien, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que ce choix, moi, dans ma vie, les directions que j'ai pris, c'est toujours des choix, des dilemmes, en fait. Et il faut être attentif, en fait, à tous les signes qui t'amènent dans cette direction.
C'est ça que j'allais te dire, c'est comment, d'après toi, est-ce que tu as un process de prise de décision ou alors c'est du feeling quand t'es comme ça face à un dilemme, comment tu fais ton choix?
Alors le process, c'est trop mathématique. Pourquoi je dis ça? Parce que si je suivais mon process, je n'aurais jamais quitté la fédération. J'avais mon salaire, j'avais mon statut. J'étais bien.
Ouais.
Donc la prise de risque était trop énorme. Je me retrouve au chômage, pas de salaire, une maison à payer, des crédits, des enfants. Oh, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, c'est ça.
En gros,
t'as un truc qui va pas dans ta tête.
Il y a un truc qui va pas. Et aujourd'hui, 2 mois après, je te fais le bilan. Alléluia, quoi.
Ouais.
Alléluia, parce que je m'exprime et je te dis, mais les propositions n'arrêtent pas. Je prends le temps, je me forme, je sais que j'ai quelque chose à apporter et j'ai suivi ma direction. Alors non, en fait, je suis arrivé à un moment où j'apprends à repérer les indicateurs, les signes. En fait, c'est entre croyant et centré sur soi-même en même temps, tu vois. Et il y a des choses, des signes extérieurs. Si tu lis L'alchimiste par Locolo, ouais. Je sais pas si t'as lu. Mm-hmm. Tu vois, c'est un petit peu ça. T'as une quête, t'as quelque chose. Et je me suis dit, j'ai quelque chose à apporter. Et la loi de l'attraction, quoi. Il y a plein de choses qui me disaient, mais attends. Attends, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça que tu peux faire et tout. Et pourquoi tu te limites? C'est bien ce que t'as fait. T'as fait 6 ans en tant qu'entraîneur. T'as une expérience sur laquelle tu peux t'appuyer. Mais la vie, c'est pas... tu t'arrêtes à... Voilà, moi, pour moi, mon évolution, elle est au-delà, quoi. Elle est au-delà de ça. Donc, je me suis dit, voilà. J'ai ça comme proposition. Et je me suis dit, waouh. Mais ok, d'accord. C'est parti. Bien sûr, j'ai consulté ma femme, mes parents. J'ai essayé de peser le pour et le contre. Et à un moment, je me suis dit, vamos, on y va. C'est quoi? C'est, voilà, vis ton rêve, en fait. Faut pas arrêter de rêver, quoi. Même à 44 ans.
Bah oui. Et je pense que c'est ça qui fait que... Enfin, moi, je suis convaincu que si tu prends pas de risques, t'as pas de... C'est très dur d'avoir des vrais résultats, tu vois. Et que, grosso modo, si tu fais des choix ordinaires, t'auras des résultats ordinaires. Si tu fais des choix extraordinaires, donc qui comportent une prise de risque, tu pourras avoir des résultats extraordinaires.
C'est
quoi. Mais il y a beaucoup de gens, ça fait trop peur. Ça fait trop peur, la prise de risque. Et ça fait trop peur de se dire, j'ai le droit à des résultats extraordinaires, tu vois.
Ouais.
Et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant ce que tu dis. Et tu parles de formation, donc tu disais, t'avais des moments de doute et tout ça. Mais je pense que le fait de se former, ça contribue à prendre confiance aussi.
Prendre confiance, exactement.
Se sentir une sorte de légitimité, un minimum, mais tu te formes, t'apprends. Et en apprenant, tu te projettes. Et du coup, d'un seul coup, ce que t'avais peur de faire, une fois que tu commences à avoir les connaissances, tu te visualises en train de faire ces choses.
C'est ça.
Et tu dis, j'y vais, quoi.
En fait, moi, dans cette période-là où j'ai arrêté, le gros problème qui s'est soumis à moi, c'était je sors de d'un environnement où je suis réglé. C'est-à-dire que j'entraînais le matin, j'entraînais le soir. Je me suis retrouvé d'un coup chez moi, j'ai plus de repères en fait. Et ce qui me faisait peur en fait de me retrouver dans cette situation, c'est le vide, la peur du vide.
Ouais.
Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, très rapidement, je me suis dit, la formation va me permettre de compenser ce vide. Et comme tu dis, de visualiser et de se projeter. Et à partir du moment où je me suis retrouvé à me former et à recommencer à me projeter, la confiance est remontée. Et ça a été ça un petit peu le processus je me suis remis sur pied très rapidement, quoi.
Et t'avais eu, parce que je sais que c'est quelque chose aussi qui est assez fréquent chez les... Là, c'est un peu revenir en arrière, mais chez les sportifs de haut niveau, l'arrêt de la carrière de sportif de haut niveau, il y en a où la transition, elle est très dure. C'est-à-dire que t'as un objectif, tu vois, qui te pousse à faire tous les jours, à t'entraîner, et d'un seul coup, cet objectif, il n'existe plus. T'as décidé d'arrêter. T'as plus d'obligation d'aller t'entraîner, donc et c'est là qu'il y en a plein qui arrêtent tout, tu vois. C'est-à-dire qu'ils passent de athlète de haut niveau à sédentaire de haut niveau, tu vois. C'est-à-dire que ça arrive très souvent, tu vois, parce qu'au final c'est parfois aussi des gens qui étaient dans leur discipline plus par plaisir du tout, mais uniquement professionnel par obligation. Toi, est-ce que t'as eu un peu une période comme ça de transition difficile? T'es devenu coach juste après?
Non. En fait, j'ai eu la chance parce que moi, je suis un mec même qui se projette beaucoup, en fait. Qui se projette beaucoup parce que j'ai besoin de nouveaux objectifs, de me challenger en permanence. Donc, durant ma carrière, je me suis toujours posé la question. Il y a une phrase qui me revenait constamment. Après le haut niveau, le quel niveau? Et cette phrase-là, elle m'a conditionné à me dire que pendant ma carrière, même tu peux être au plus haut, tu peux faire des pauses, mais prépare-toi à l'après. En fait, j'ai peur du vide, en fait. Donc, j'ai passé les examens pour les concours des grandes écoles. J'ai obtenu un master en management et stratégie d'entreprise à l'ESSEC. Et de là, en fait, j'ai pu avoir une entreprise, Veolia, qui m'a pris sous sa coupe et qui m'a signé un contrat, une CIP, un contrat d'insertion professionnelle.
D'accord.
Avec moi, la Fédé.
Ok.
Et donc, j'ai pu travailler sur ma fin de carrière, les six dernières années avec Veolia. Je m'entraînais le matin et je travaillais l'après-midi.
D'accord.
Ou inversement, où ils me libéraient quand c'était la préparation des jeux. Donc, ils m'ont commencé à me former dans l'entreprise à un poste stratégique, marketing, commercial, chef de projet. Et petit à petit, en fait, j'ai pu faire cette passation
ouais.
qui m'a permis, lorsque j'arrêtais en 2012, en fait, de récupérer mon poste à 100%, j'étais à mi-temps. Donc, j'étais préparé, en fait. J'étais préparé psychologiquement, physiquement à cette transition. Et ensuite, ça a duré un an, et la fédération, elle est venue me chercher, en fait. Ouais. Elle me dit, ouais, mon Michael, t'as un bon profil, on aimerait que tu viennes en tant qu'entraîneur dans le staff technique. Donc, j'ai pas eu ce problème, parce que moi, après, j'ai sauté dessus, quoi. Ouais. J'étais dans la continuité aussi de ma carrière. C'est ouais. aujourd'hui, en fait, que je ressens
ouais.
ce que t'es en train de me dire.
D'accord,
c'est-à-dire ouais. que, bah, il y a eu un an à Evolia, mais c'est pas grave. En fait, il y a eu 22 ans où t'étais dans le haut niveau. Ouais. Aujourd'hui, indirectement, tu sors du haut niveau et tu redeviens, on va dire, une personne qui doit aller chercher un travail, un boulot, à exister, entre guillemets, comme une personne lambda. Voilà.
De redéfinir, en quelque sorte.
Ouais, exactement. Et là, je commence ma seconde partie de vie, en fait.
Ouais. C'est ça qui est excitant, non ?
Et ça, c'est hyper excitant. Mais ça pourrait être déprimant.
Ça pourrait être déprimant, ouais.
Ça l'a été. Ça l'a été. Je suis passé par une phase, j'ai perdu 5 kilos. Après, je suis en train de te faire une narration de quelque chose de parfait, mais ça n'a pas été parfait. Hein.
Ouais.
Cette prise de décision de partir, ça a été hyper difficile, même politiquement par rapport à ma fédération, où j'arrive plus à me sentir vraiment... à ma place, donc voilà, j'ai dû me faire accompagner psychologiquement. Ça c'est super important.
Ouais.
Donc j'étais limite en fait en phase de déprime parce que j'arrivais pas à me projeter dans ma fédération, j'arrivais pas à me voir un avenir serein. Donc cette décision elle s'est faite de cause à effet. Je me dis bon, j'arrive pas à me projeter. Comment je vais concevoir l'avenir? Comment je vais devenir un nouveau moi, en fait. Donc, ouais, j'ai dit, eh, c'est bon, vamos, allez, casse-toi, c'est bon, t'as plus rien à faire là-bas. Ou, si tu veux continuer à apporter ta pierre à l'édifice du taekwondo français, le faire de façon libre, différente.
Ça a été un déclic, ou alors ça a été un cheminement
C'était un cheminement. Ouais. Ça a duré quand même un an, je dirais, ce cheminement, où, indirectement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que mes valeurs ont changé. Il y a un moment, quand tu sors de ta carrière de sportif au niveau, t'as encore ce côté carriériste, performance, égo, orgueil, gloire, t'es encore sous les feux du projecteur.
Ouais.
Et petit à petit, en fait, ces dernières années, en fait, ces valeurs, elles ont changé. C'est plus ça, en fait. Ma priorité, c'est ma famille, la connaissance de moi-même, c'est mon écologie, c'est le partage, c'est la formation.
Ouais.
Et quand ces valeurs elles changent de priorité, t'es plus en adéquation avec le système dans lequel t'évolues.
Je comprends. Ouais.
Donc là aujourd'hui, pourquoi je me sens super super bien, c'est parce que j'ai trouvé un sens à ma vie et j'ai mis mes valeurs au centre. Donc, je me suis redéfini et j'ai trouvé une congruence, en fait.
Aligné avec tes valeurs.
Tout à fait. Voilà.
Ouais, bah ça, c'est génial. Quand tu peux être aligné professionnellement avec tes valeurs personnelles, la vie, elle est parfaite.
Ouais. Ouais. Oh, mais c'est vrai. Je suis heureux.
Ah, voilà.
Je suis heureux.
Bon, bah écoute, je pense qu'on va finir sur ça. C'est une belle phrase de terminer sur « je suis heureux », je trouve. C'était super, je trouve, comme conversation. On a été quand même... je trouve bien au fond des choses, on a abordé des sujets, tu vois, profonds, et je te remercie de t'être livré comme ça, et je t'avais proposé qu'on se fasse un petit tuto après le podcast, donc c'est ce qu'on va aller faire là. Est-ce que t'as quelque chose que tu voudrais dire pour la fin? Si les gens ils veulent te suivre, nous on mettra tous les liens vers les réseaux sociaux, ce que tu veux et tout, mais est-ce que t'as une conclusion que tu voudrais apporter à cette conversation, quelque chose que tu voudrais dire?
Non, je pense qu'on a été, comme tu dis, au fond, au bout des choses. Moi, ce que c'est des valeurs nobles, en fait, que j'aimerais transmettre dans ma façon d'enseigner, dans le partage, dans tout ça, quoi. C'est vraiment ce qui aujourd'hui se perd, tu vois. Quand je parle de noblesse, c'est le respect, tu vois, ça, c'est important. Et les arts martiaux, c'est quand même garant d'un certain respect. C'est... la fraternité, la cohésion, l'esprit d'équipe, voilà, tout ça, le partage, et ça, ça me paraît important. Et je pense que c'est l'essence même du taekwondo en particulier, mais des arts martiaux en général, de ne pas perdre ses valeurs, en fait.
Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est des belles valeurs, et c'est des valeurs, dont on a besoin en tout cas qu'on a besoin d'essayer de maintenir.
Voilà, pour redonner du sens en fait. Mmh. Et comme on le disait en début, et ça me permettra de finir, c'est l'humain est au centre en fait.
Ouais.
Mmh. Il peut avoir toute la technologie, tous les systèmes, tout. C'est l'humain en fait qui fait la différence.
Mmh. Fondamentalement, on reste, on reste des êtres humains, peu importe l'évolution technologique et tout ça, on reste les mêmes.
Ouais.
Ouais. Bon, bah, écoute, c'est une belle conclusion. On va aller se changer et puis je crois que je vais me faire taper dessus, malheureusement. Merci, Mickaël.
Avec plaisir.